L'observation écrite, y en aurait-il un séance ? Non, une fois, deux fois, trois fois, donc je considère ce compte rendu comme adopté, évidemment adopté et sans réserve. Avant de rentrer dans l'ordre du jour, quelques informations. Nous allons bientôt dénommer le rond-point, on appelle le rond-point Lidl aujourd'hui, qui n'est pas du tout représentatif de la. De nom de voirie, nous allons le dénommer rond-point Simone Veil. La commune a souhaité, je pense que c'est une disposition de reconnaissance vis-à-vis de la personne, de l'homme d'État, de la femme d'État qui a été Simone Veil. Bien sûr, nous avons demandé l'autorisation à la famille, disons que ça permet de situer, en rendant hommage à cette personne, un lieu dénommé aujourd'hui rond-point de Lidl qui ne nous convenait pas du tout. Donc c'est une information que je vous donne.
Oui. Vous le ferez voter.
Pardon ?
Vous le ferez voter, vous, non ?
C'est le département, c'est pas notre compétence. On propose au département, on verra ce qu'on attend à la réponse du département. Voilà. Oui. Voilà. Ensuite, donc nous avons eu, comme vous le savez, la visite du ministre de l'Intérieur dans notre jeunesse et médiation le vendredi 9 février. Bernard Cassard, qui m'a supplé pendant mon absence, a eu l'honneur d'accueillir la délégation. Je ne ferai qu'évoquer simplement le principe de la satisfaction du ministre sur le dispositif de prévention qu'il a pu observer, auquel nous sommes tous très attachés et qui contribue largement à la sérénité de notre ville, même si elle ne suffit pas à elle seule. Voilà, accompagné du sénateur Jean-Pierre Grand, du député Monsieur Padeil, vous dire quelque chose, et de la sénatrice Marie-Thérèse Bruguière.
Est-ce qu'on a profité pour qu'il s'engage à étendre la ZSP à Carnon?
Alors.
Et est-ce qu'on a profité pour lui demander, je ne sais pas si on est à capacité de lui soumettre un plan pour continuer les mises en place de caméras, s'il continuerait l'excellente politique du gouvernement précédent de subventionner pour 50% toutes les installations de caméras sur la commune.
Alors, pour la première partie de la question, je peux répondre. La demande avait été introduite que d'inclure Carnon, j'allais dire in situ personae, comme éligible au fonds d'aide, comme faisant partie de la ZSP, et donc éligible à des fonds, à des aides. Il a été convenu, Laurent Tricoire ne me démentira pas, si je dis que dans les dotations en termes de caméras et de vigilance passive que sont les caméras, Carnon a été inclus dans un plan de financement, j'allais dire de facto, mais pas, ils ont dit, il n'y a qu'une commune, c'est Mouguio. Mouguio, c'est Mouguio-Carnon. Et la saisonnalité a plaidé justement pour la mise en ZSP de Mouguio. On regarde un de son voisinage avec Lunel, qui était la zone un petit peu visée, si je puis dire, puisque c'est le siège de la brigade de gendarmerie, de la compagnie de gendarmerie. Deux, par rapport à la saisonnalité, la spécificité de Mouguio avec Carnon, a suscité l'installation de cette ZSP. C'est cet argumentaire que nous avons obtenu avec le député Partey-Mignol. Le maintien de cette disposition et l'application des offres promotionnelles que l'État nous a consenties. Voilà. Alors, ensuite, en termes de plan de caméra, là, je ne peux pas dire, Bernard, tu peux répondre à M. Pradet.
Non, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec le ministre sur ce sujet-là, mais le directeur de cabinet a échangé sa tarte avec notre ami Tricoire, et donc il va y avoir des négociations à ce sujet-là. Mais sur le moment, non.
Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement chiffré. C'est une opération de com. Oui. Affaire à suivre.
Je préfère qu'il vienne pour ça que pour que quand Bernard Cazin est venu pour constater que les inondations nous avaient fait beaucoup de mal. Bon, là, je vais dire.
Valls n'avait pas eu besoin de venir pour faire un chèque.
À suivre. Je le regrette beaucoup. Pourtant, je pensais que vous aviez le calcul.
Non, mais à l'époque, quand il était bien tenu, Valls était pas mal.
Bon, écoutez, faites le nécessaire pour que les ministres s'occupent de notre territoire. De mon côté, je fais de mon mieux. Et pas tout seul. Dernier point, une information. Donc, Vous savez que la requalification de la base de Nantique, elle avait fait l'objet d'un contentieux d'un recours. Donc, j'informe le conseil municipal, pour ceux qui n'auraient pas lu la presse, que le recours du rejet du recours en référé contre cette reconstruction, et dont les travaux continuent. Voilà. C'est l'information que donne le conseil municipal, et je suis satisfait de cette décision, qui, je l'espère, nous permettra de mener à bien ce projet, même si parfois il peut contrarier les habitudes de certains, ce que je peux comprendre jusqu'à un certain point. Nous passons aux décisions municipales. La première, la 9, c'est une décision d'estin justice, c'est un problème d'urbanisme dans les jardins d'Annette. Il y a eu une malfaçon au niveau du niveau d'exécution par rapport au lotissement, c'est ça ? Et donc il y a une personne qui ne s'est pas vue délivrer le certificat d'urbanisme et qui met en cause le lotisseur, la commune. Dans cette affaire, elle n'est pas du tout responsable. C'est un certificat de conformité, excusez-moi. Ensuite, nous avons la sarabande des contrats de spectacle et d'intervention culturelle que vous avez pu découvrir. Les marchés et les procédures adaptées comprises entre 25 000 et 90 000 euros hors taxes. Il s'agit du matériel électrique destiné au bâtiment. Alors, ces sommes ne sont pas forcément celles que nous allons dépenser, ce sont les montants maxi. Voilà. Saluons l'arrivée de M. Granivet. Voilà. Donc, nous avons assez peu d'informations sur ces marchés. Je vous communique de manière exhaustive. Voilà, donc nous allons passer au projet de délibération numéro 1, c'est-à-dire l'examen du budget primitif de la commune qui fait suite au débat d'orientation budgétaire que nous avons mené le mois dernier. Avant de donner la parole à Caroline Favier, notre adjointe aux finances, je vais simplement rappeler le décor dans lequel s'inscrit ce budget. Donc, très brièvement, la première partie de mandat 2014-2015-2016, dédiée en fonction des difficultés liées aux baisses de dotation de l'État, un gros travail qui a été fait à l'interne sur les économies, sur la mutualisation, sur le temps de travail, dont un travail en interne d'efficience, ce que M. Capelletti avait relevé l'autre jour au niveau du débat d'orientation budgétaire. En 2017, l'année qui vient de s'écouler, mise en place d'une étude du lancement d'un schéma directeur, c'est-à-dire que nous nous sommes donné un moyen qui traduit une réflexion à travers des études, à travers, un travail de refondation de la ville, déployer une vision sur 15 ans, une ambition d'accompagner notre ville et sa croissance dans un développement autant Carnot que Moggio, avec, un espace public revisité, un urbanisme qui va être revu, donc un aménagement de l'espace public que la mission Racine nous avait laissé à Carnon d'une manière qui ne nous satisfaisait pas. Et donc, au cours de ce mandat, nous avons restructuré un plan de financement, ce qui n'avait pas été le cas, disons, de manière très affichée dans les mandatures précédentes, avec un PPI. Un PPI qui nous permet une lisibilité pour justement phaser nos efforts. Et phaser nos efforts, ça veut dire que le budget 2018 ne sera pas, comme j'ai dit au débat d'orientation budgétaire, forcément un budget de réalisation au sens de en dehors. Enfin, il sera, par rapport au schéma directeur, il sera, disons, au service des intentions, puisque nous aurons une présentation de ce schéma directeur prochainement à Carnon. À Carnon, nous allons travailler sur l'espace public, sur la circulation, sur le stationnement, sur le rôle du tourisme. À Moggio, nous allons travailler essentiellement sur le plan local d'urbanisme qui va être mis en révision et qui va nous demander, dont l'ambition est d'arriver à produire un document dans les deux ans, un PADD. Bernard Cassard, si vous voulez, sera plus prolixe que moi si vous le souhaitez. Donc, une première étape cette année qui se fera sur le mode de la concertation avec les Carnonais et avec les Mégorés. Voilà, ça c'est la méthode. Donc, néanmoins, vous le savez, nous avons inscrit pas mal de réalisations au niveau du patrimoine, donc avec, bien sûr, le projet Prévert qui va enfin commencer cette année, et qui se finira à peu près dans un an. Donc, Nous avons inscrit certaines sommes qui apparaîtront dans le budget d'investissement, 3,3 millions, qui ne seront pas entièrement consommées, qui devraient se consommer à la fin du premier budget de 2019. Donc le château qui sera fini cette année, qui, quand même, qui n'est pas des moindres, et puis sur Carnon et sur Canon, dont la capitainerie est... La capitainerie et le yacht club qui seront faits sur les 2 ans qui viennent. Voilà. Après, disons que nous avons beaucoup d'argent qui sera utilisé pour la proximité, le cadre de vie, vous le savez, qui sont des priorités. Cela apparaîtra tout à l'heure. Madame Favier vous montrera les camemberts qui montrent la consommation des crédits, tant en investissement qu'en fonctionnement. Avec une part belle accordée justement au cadre de vie éco-responsable. On verra ce qu'il est des économies d'énergie, on en reparlera, ce qui est de la propreté, de la gestion des énergies, de la gestion des déplacements doux. La fête de la nature sera un point fort également cette année. Donc nous allons également mettre l'accent à Carnon sur tout ce qui est équipement sportif, sur tout ce qui est, verdissement de la station. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus, avec également un tourisme qui portera les ambitions de la ville, non pas simplement au niveau de Carnon, mais au niveau également de Mouguio. Je parle du patrimoine historique et du patrimoine naturel. Voilà. Donc, ce sont de grands axes de réflexion qui ne vous étonneront pas. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'introduction annonce la couleur d'un budget qui est résolument ambitieux par rapport à Madame Favier, vous en donnera les montants, volontariste, avec lequel je souhaite que nous ayons un dialogue pour la construction duquel nous l'avons déjà eu un débat de l'ambition budgétaire, un dialogue constructif les uns et les autres au bénéfice de nos concitoyens. Nous avons encore su préserver cette capacité d'investir, j'espère le plus longtemps possible, sans laquelle notre vie ne peut pas se transformer. Et bien sûr, cette année commencera la fonte de Mouguio, et ça sera notre sujet, qui est un budget annexe, qui n'est pas dans le plan d'investissement du budget 2018, puisque c'est une opération spécifique. Voilà. Caroline, si tu veux bien démarrer.
Je veux bien. Alors, la présentation du budget cette fois-ci, si vous voulez bien, on va la faire sur deux points. La première, ce sera les chiffres qui doivent être communiqués, même si je ne vais pas tout reprendre, puisque le débat d'orientation budgétaire a été assez riche la dernière fois, avec tout, notamment les indicateurs à communiquer. Et une deuxième partie, un peu plus, j'allais dire, concrète, dynamique, c'est-à-dire vraiment basée sur l'utilisation du budget, c'est-à-dire de l'argent de la commune, sur 2018. Alors, en introduction, je voulais juste vous rappeler des points qui sont importants et qui montrent que nos projets d'investissement sont ambitieux, et on souhaitait le souligner, sans hausse de fiscalité, une fois de plus, pour 2018. Donc, vous le savez, ça, on en a déjà parlé lors du débat d'orientation budgétaire, on n'a pas de baisse importante annoncé cette fois-ci de la dotation globale de fonctionnement, puisque c'est l'arrêt de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques. Pour rappel, elle nous a quand même, ce redressement, la participation de la collectivité de Mouguio-Carnon nous a quand même coûté 1,5 million entre 2014 et 2017. Donc vous le savez maintenant, c'est remplacé par un pacte financier avec l'État, qui consiste à mesurer l'évolution de nos dépenses de fonctionnement qui ne doivent pas dépasser 1,2% d'une année sur l'autre. Pour la commune de Mouguio, cet objectif à 1,2% va être difficile puisque le budget 2018 sur nos dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2,67% entre 2017 et 2018. Mais bon, on fera les efforts nécessaires pour les années qui arrivent. Alors pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on doit entretenir notre patrimoine, renforcer la proximité en mettant le citoyen au cœur de l'action et favoriser le lien social. C'est ce que vous détaillez, monsieur le maire, avant que je vous donne ces détails, tout en s'engageant dans le développement durable. ce qui entraîne bien sûr une augmentation immédiate des dépenses de fonctionnement. Alors, pour répondre aux préconisations du schéma directeur également, la requalification de la station de Carnon, M. Maire vous l'a dit, le besoin d'investissement supplémentaire est nécessaire et nous demande un investissement supplémentaire en 2018. Nous devons faire aussi, vous le savez, avec la suppression dégressive de la taxe d'habitation. Alors, pour l'instant, l'État doit compenser. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais on ne devrait pas perdre de rentrée d'argent. La situation financière de notre ville est solide. On vous le répète depuis, on le redit depuis quelques années. Il y a une capacité de désendettement qui est exceptionnelle à 3 ans, un taux d'épargne qui est supérieur à 10% estimé pour 2018. Alors, c'est le résultat d'une stratégie financière, bien sûr, d'innovation pour réduire les coûts. Ce sont les économies importantes qui ont été réalisées et créer de la valeur. C'est cette situation financière qui est bonne pour notre commune qui aujourd'hui nous permet de financer un plan pluriannuel ambitieux estimé à 26,6 millions d'euros entre 2018 et 2020 et de garantir notre capacité de désendettement puisque ça aussi, vous le savez, on en a parlé au DOB, ça fait partie du pacte que nous avons avec l'État. Nous connaissons toutes et tous l'urgence des mesures à prendre pour limiter le réchauffement climatique. Ça aussi, M. le maire vous l'a dit, ça fait partie de nos priorités. Au niveau international, national, mais aussi, bien évidemment, au niveau local. Les investissements pour la rénovation énergétique de nos bâtiments municipaux sont porteurs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'économies d'énergie, et ce qui de suite se reporte pour nous sur des économies de fonctionnement. Nous souhaitons également limiter la pollution lumineuse et ses impacts sur la biodiversité et la santé humaine. Concernant les dépenses de fonctionnement, nous souhaitons donner priorité aux équipements de proximité et à une politique sociale efficiente, car la crise économique actuelle a de fortes conséquences en termes de chômage et de précarité pour certains de nos citoyens. Nous devons donc réduire nos coûts. Ainsi, nous capitalisons sur les richesses humaines, l'efficacité et la qualité du service rendu à l'usager et sur une administration éco-responsable et durable. Alors, ça est fait en ce moment aussi par un projet ambitieux co-construit par notre administration pour le projet qu'elle porte, le projet d'administration pour le... Je vais y arriver. Le projet d'administration qu'on avait développé... J'ai pas repris tout le détail, qui est en tout cas déjà bien enclenché. Le budget primitif 2018 est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 29 200 000 euros pour la section de fonctionnement et pour 18 832 765 euros pour la section d'investissement. Afin de financer l'ensemble du programme d'investissement et de donner une plus grande visibilité à notre budget, il est nécessaire d'intégrer de façon anticipée les résultats du compte administratif 2017 au budget 2018. Ça, on en avait parlé aussi lors du DOB. Il n'y aura pas de budget supplémentaire. On inclut directement les résultats de 2017 et il pourra y avoir par contre des virements, bien sûr, après selon les encours et les réalisations lors du budget 2018. Les évolutions présentées ci-dessous sont calculées à partir des prévisions budgétaires totales 2017, c'est-à-dire le budget primitif, le budget supplémentaire, les décisions modificatives et les virements de crédit 2017. Alors, on va, dans un premier temps, séparer la section de fonctionnement et la section d'investissement. Donc, au niveau du fonctionnement, les recettes de fonctionnement pour commencer. Les prévisions des recettes de fonctionnement sont en baisse de 4,20%. Donc, malgré la progression des recettes fiscales directes et indirectes, qui représentaient quand même plus de 2,16% due à l'augmentation des bases, ça aussi on l'avait détaillé, de 1,70% de la fiscalité locale, l'évolution marquée par des taxes sur les droits de mutation et titres onéreux, ça aussi c'est le résultat d'un travail poussé au niveau de l'administration pour aller chercher, et de l'Office du tourisme pour aller chercher des droits supplémentaires, l'augmentation de la taxe de séjour. Une diminution des dotations et participations de 12,75%. En 2017, la commune a bénéficié de subventions au titre du plan Vigipirate, dont elle ne bénéficiera pas en 2018. Et ce chapitre sera actualisé par décision modificative dès la notification par les services de l'État des premières compensations liées aux exonérations de la taxe d'habitation, puisque c'est ce que je vous disais en introduction, on ne sait pas encore sous quelle forme ça va être fait. Une diminution très nette du fonds de roulement de 34,70% affecté au financement de la section d'investissement. Donc ça, plus simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu un taux de réalisation beaucoup plus important en 2017. Et donc forcément, le fonds de roulement a diminué. Le fonds de roulement nous permet d'autofinancer les dépenses d'investissement et de limiter notre recours à l'endettement au crédit. Les fonds de roulement ont été consommés en partie pour financer les dépenses d'investissement 2017 aussi. Au niveau des dépenses de fonctionnement, donc la prévision des dépenses de fonctionnement affiche de la même façon une diminution de 4,20%. Alors là, je voulais juste vous donner une précision parce que vous devez vous dire que je vous parle depuis... le débat d'orientation budgétaire d'une augmentation de 1,2 des dépenses de fonctionnement. Et là, je vous parle d'une diminution. C'est parce que au moment du DOB, on compare le réalisé de 2017 avec le budget 2018, alors que là, on compare de budget à budget, c'est-à-dire le budget 2017 de fonctionnement avec le budget 2018 de fonctionnement.
Comment on peut le réaliser sans avoir fait le compte administratif?
Pardon ?
Comment on peut comparer un réalisé sans avoir procédé au compte administratif ?
Réalisé 2017.
Oui, mais c'est au compte administratif.
C'est au compte administratif, ça se vote le réalisé de 2017.
Oui, mais on a déjà une évaluation de ce qu'on a réalisé.
Certes, il est pas voté, mais nous le savons.
Pas moi.
Mais nous informons.
Donc je vous crois.
Merci. Ouais. Que ça dure.
Ouais. C'est... Avec, c'est pas comme ça d'habitude.
J'explique extrait la différence qui pourrait vous interpeller entre ce que je vous ai dit au DOB et la maintenance.
Je soulève la question parce que vous avez affecté des flux cette année, ce que vous ne faisiez pas habituellement.
Oui.
Et on se pose la question, comment vous faisiez pour les affecter sans avoir procédé au compte administratif? C'est le compte administratif qui nous permet de dégager les flux.
Oui.
C'est une délibération du conseil. Là, c'est...
Officiellement, bien sûr.
Oui, vous savez, en dehors de l'officialité, je suis perdu. Hein.
Après, vous imaginez bien que chaque jour, les comptes sont remis à jour. Et
c'est comme la pétanque, ça se mesure à la fin.
Vous avez ce qu'on appelle une reprise anticipée des résultats, vous qui êtes un spécialiste.
Je ne suis pas un spécialiste, mais
Madame Abba, voilà,
oui,
je le répète.
Non, mais c'est bien, elle vous donne à la bonne clé, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, mais on n'a jamais nié le fait que Mme Bain était au top.
Vous nous offrez un exemple. Pas d'autres exemples.
Non. Mais bon, jusqu'à présent, on faisait un compte administratif.
On vous donne. Alors, le point aussi, de manière sérieuse, nous vous donnons des éléments qui s'avèrent avant.
Qu'on vérifiera au compte administratif.
À être vérifié au compte administratif. Voilà. Pensez bien qu'on ne va pas vous raconter Malina. Vous pouvez le noter qu'aujourd'hui, le 19 février, on vous a donné cette information. Non, on parlait sérieusement. Que vous soyez dans une posture pour vous dire, c'est pas officiel.
Non, mais là.
On l'entend aussi, c'est votre rôle.
Non, mais là, c'est la première fois que vous réinjectez dans le budget primitif. D'habitude, vous le réinjectiez au BS après avoir fait passer.
Et il n'a pas de BS.
On
ne
fait pas de BS parce qu'il y a.
Oui, mais.
On utilise. Et oui.
Comme on ne fera pas de VS, c'est de l'élection directe, c'est le circuit court. Allez.
C'est de la finance.
Quoi. Même il restera un compte administratif qui va. Il y aura forcément des virgules. Ça tombe, ça peut pas tomber juste, hein, même si ça tombe, ça peut tomber presque juste, mais ça peut pas tomber juste sur la masse.
Alors, les dépenses de fonctionnement. Donc, il y a aussi la sortie du dispositif de la loi SRU, c'est-à-dire qu'en 2017, la commune contribuait à la pénalité fixée par la loi SRU à hauteur de 422 000 euros. En raison d'un nombre de logements sociaux insuffisant au regard du taux de logements sociaux fixé à 25%. Et en 2018, la commune sort du dispositif, c'est-à-dire n'a plus cette pénalité jusqu'en 2020, entre autres grâce au projet de la fonte mobile.
Tout autant que la communauté d'agglomération n'excédera pas 50 000 habitants sédentaires. Ça, c'est la garantie. Si ça le dépasse, ce n'est pas sûr. Mais j'espère que non.
Donc, toujours dans les dépenses de fonctionnement. On l'a vu déjà, la baisse du fonds de roulement de 17,45%. Donc en 2018, nous continuons d'entretenir le patrimoine scolaire, sportif et culturel. L'entretien et la propreté de la ville est notre priorité et nous avons renforcé les budgets consacrés à ces politiques publiques. Une partie de cette augmentation est compensée par les économies réalisées dans le cadre des actions de développement durable, c'est-à-dire qu'on a eu une baisse des consommations d'électricité, la dématérialisation de l'administration qui fait réaliser des économies considérables. Nous anticipons des économies sur les consommations d'énergie. Le chapitre des dépenses de personnel évolue très faiblement, ça aussi on a vu le détail lors du DOB, plus 1,14%, malgré l'augmentation du glissement vieillesse technicité estimé à 2,5%. La commune maintient ses engagements en matière d'optimisation des ressources humaines, les crédits consacrés aux subventions aux associations sont maintenus, la participation au service d'incendie et de secours progresse de 90 000 euros, la participation de la commune versée au CCAS augmente de 10 000 euros. Ces augmentations font progresser le chapitre charges de gestion d'une augmentation de 3,83%. Alors, il y avait après un premier camembert sur les dépenses de fonctionnement. Vous avez eu, et qui est intéressant puisque ça vous donne la répartition. Alors, je ne sais pas si vous voulez. Je
parlerai sur ta feuille.
Donc, au niveau de tout le chapitre proximité, ce qu'on appelle proximité, c'est tout ce qui concerne vraiment le citoyen, c'est-à-dire l'administration directe, ça représente 44,07%. C'est tout le service direct aux citoyens. Vous avez, par exemple, l'information, communication, publicité, c'est 1,95% du budget. Les fêtes et cérémonies, 3,50%. L'aide aux associations, 3,09%. La sécurité, 8,01%. L'enseignement, 6,40%. La culture, 5,88%. Le sport, 2,52%. Les interventions sociales, 2,15%. Le cadre de vie, 15,81%. L'environnement, 3,19%, et les foires et marchés, 0,9%. Aide au tourisme, 1,40%. On verra plus en détail après, sur la fin, ce que ça représente concrètement pour chaque poste. Alors, on passe à la section d'investissement. Après avoir vu le fonctionnement, la section d'investissement. Alors, les recettes pour l'investissement. Elles s'établissent à 18 832 766 euros. Elles augmentent en prévision de 61,94%. Alors, on a d'abord le fonds de compensation de TVA qui est calculé sur les réalisations de l'année précédente. Donc, vu qu'il y a eu des travaux importants, un retour de TVA, l'augmentation du taux de réalisation de la section d'investissement 2017, donc le FCTVA progresse de 36,74%. L'excédent de fonctionnement capitalisé permet de financer les reports de crédit. C'est ce qu'on a développé avant, habituellement intégré lors du budget supplémentaire. Nous avons décidé d'intégrer le financement des dépenses engagées, non mandatées, de façon anticipée dès la présentation du budget primitif. Les investissements sont également financés par les cessions de biens à hauteur de 1 829 000. Alors qu'est-ce que ça signifie à l'intérieur? Vous avez la vente de la maison léguée par Madame Pélissier, la vente de la maison Estève, la vente à la SPL, leur aménagement des locaux de bureau à hauteur de 600 000 euros, la vente à la SPL, leur aménagement des terrains situés à la pointe de Mudaison dans le cadre de l'opération de la fonte Mobio. L'épargne constituée pour partie par le fonds de roulement constaté au 31 décembre 2007 diminue, c'est ce que je vous dis dans l'introduction, de 17,45%. Alors, le besoin d'emprunt pour 2018 est estimé à 3 650 000 euros. Il sera évidemment mobilisé en fonction de la réalisation des programmes d'investissement. Au niveau des dépenses d'investissement, le PPI de la commune est ambitieux. Monsieur le maire vous l'a redit, il s'élève à 26,6 millions d'euros de 2018 jusqu'en 2020. Un point d'étape concernant les études et les travaux du schéma directeur sera fait dans le courant de l'année pour vous donner, parce que vu l'ampleur du PPI des projets d'investissement, on fera un point régulièrement au Conseil pour vous donner l'évolution de cette programmation budgétaire. La planification des études et des travaux seront réalisées sur Carnon, qui vont être réalisées sur Carnon, sont confiées à la SPL leur aménagement. Alors, au niveau des dépenses d'investissement, on a aussi un camembert. Voilà. Donc, même chose, la proximité. Donc là, on est à 42,62%. Les informations et la communication, 1,64%. Les fêtes et cérémonies, 2,33%. L'aide aux associations, 1,93%. La sécurité, 4,82% du budget. L'enseignement, 5,53%. La culture, 7,64%. Le sport, 7,60%. Les interventions sociales, 1,25%. Le cadre de vie, 20,47%, l'environnement 2,17%, foire et marché 0,53%, l'aide au tourisme 0,82%. Là, on est sur l'investissement. Alors, ce que je trouvais peut-être intéressant à faire sur le budget qu'on fait moins sur le DOB, c'est de prendre quelles sont, pour vous donner les dépenses importantes sur 2018 par délégation, pour que vous ayez une idée concrète de comment va être utilisé l'argent sur 2018. Donc, une meilleure visibilité.
Ce qui serait super, c'est d'avoir la même chose sur le réalisé 2017. Ça, ce serait le top.
Sur le réalisé 2017, sur quoi l'investissement ?
Par délégation.
Par délégation ?
Oui, parce que M. Cravert, on voit ce qu'il fait. Et après, les adjoints, ils ont du mal à décaisser. Ils ont du mal à faire avancer leurs projets.
À faire avancer les projets ou la visibilité?
Non, les budgets qu'on met en budget,
oui.
On a du mal des fois à les voir réalisés, finalement. On vous reproche de faire glisser le budget, c'est tout, hein, on parle que de ça.
C'est-à-dire, quand on a une inscription budgétaire, si on n'a pas une autorisation de programme, nécessairement, regardez cette année, vous mettez 3,3 millions sur Prévert, on sait que Prévert ne sera fini qu'au premier trimestre 2019, automatiquement. Il y a une somme dont on sait qu'elle ne sera pas nécessairement consommée. Si vous regardez, je sais que vous l'avez fait, l'exécution des budgets dans les 4 ou 7 années de ce mandat, on tourne à peu près à 6 millions d'euros, 6 millions 7, 5 millions et demi. Il faut le regarder sur une consommation pluriannuelle. Ne le regardons pas stricto sensu sur l'année 2018. On sait très bien que le programme est ambitieux, mais que nécessairement, pas parce que on se roule les pouces, mais parce que il y a certains délais d'exécution de. Prenez la capitainerie. La capitainerie, le marché a été fructueux. On traîne mal à 1,8 million, 1,6 million, et on va pas tout dépenser cette année.
En fait, votre manière de faire glisser, elle ouvre la porte. Comme on ne réalise pas tout, je comprends ce que vous faites. Mais comme vous ne réalisez pas tout, ça ouvre la porte à tout le discours qui dirait ah, mais on pourrait peut-être baisser les impôts, parce qu'en fait, on a fait un prélèvement qui ne servait à rien, parce que ça n'a pas été consommé. Donc, on a ce pépin là.
A contrario, on vous dit.
Et de l'autre côté, économiquement, on ne fait pas l'outil, on n'a pas l'outil keynésien qui fait que on améliore, on équipe de manière cadencée. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne cadence pas nos équipements.
Alors, c'est cadencé, puisque vous avez le PPI qui sert à ça. Après, on ne peut pas, comme disait monsieur le maire à l'instant, c'est-à-dire que vous avez des délais. Qui pour réaliser nos plus gros projets, vous avez des imprévus Et si vous ne gardez pas cet argent, si vous ne provisionnez pas cet argent, qu'en est-il lorsque vous arrivez à la fin du projet? Si j'arrive à la fin de Prévert et que j'annonce que, bah, que finalement, j'avais effectivement pas réalisé ce qui était prévu sur 2018 ou 2019 pour des raisons X ou Y, mais que maintenant, j'ai pas les fonds, je les ai plus les fonds. Ça, ce serait pas responsable.
Vous pouvez, vous, oui, mais ça, quand vous le formulez comme ça, ça a l'air limpide. Mais on peut avoir le PPN inverse. Sur la fonte de Moggio, vous saviez très bien dans quelle zone vous vouliez intervenir. Vous avez retardé le plus possible et les études.
Non,
je parle sur 10 ans. Sur 10 ans, vous avez retardé le plus possible et les études, et les acquisitions, et les fossés. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec le PPRI qui nous a mangé la moitié de la zone. Donc c'est là qu'on a pris un risque.
Je vous laisse parler, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on a misardé. C'est les épisodes de pluie en 2014 qui nous ont amené nous à faire les études avant que l'État nous donne le porté à connaissance. Et c'est pas de gaieté de cœur qu'on a payé 420 000 euros de prune pour compenser la carence, le problème de carence de logements sociaux. Bien au contraire, on aurait souhaité commencer plus tôt. Et quand avec Yvon Pradé en 2006, on a réuni pour la première fois les propriétaires, jamais on imaginait qu'on en serait en 2018 et que les premières maisons ne seraient pas là en 2019. Fin 2019 ou début 2020. Non, on ne s'est pas amusé. Pas du tout. En plus, c'est un budget annexe. C'est même pas dans le champ de la discussion d'aujourd'hui.
Non, à l'époque, les acquisitions, elles étaient dans le budget municipal. Les premières acquisitions et les premières études, elles auraient pu être dans le budget municipal. Je dis qu'on a tardé le plus possible ces investissements-là et que si on n'avait pas tardé, on n'aurait pas eu un PPRI aussi dur. C'est ce que je vous dis, moi. C'est pas 2014 qui fait que ça s'appelle la fonte de Moggio, hein. C'est depuis avant qu'on sait que c'est
mandat. On a attaqué quand vous étiez, et vous le savez, la région nous avait dit qu'elle ne participerait pas aux études préliminaires par rapport au fait qu'on n'était pas sur une zone urbanisée. Ça fait depuis longtemps que nous essayons de travailler sur la mise hors d'eau de cet espace. Et c'est justement les problèmes hydrauliques qui ont fait que tout cela a été retardé. Puisque l'étude de Simo, rendez-vous compte, fin 2011, d'un conseiller général, j'alerte le département, on est dans un plan, on est dans un papier d'intention, on va passer dans un papier d'action, peut-être en 2018, en 2019. 7 ans, 8 ans, avant de faire quelque chose qui saute aux yeux. Je ne peux pas vous laisser dire que ce soit amusé, on ne s'est pas amusé du tout.
Non, je n'ai pas dit amusé, hein. Si vous prenez une ville comparable, si vous prenez Latte, leur papier a été bouclé, leurs digues ont été faites. Donc je vous dis, on est en retard. Et c'est je réplique pour illustrer le fait que des retards d'investissement, ça peut nous faire des pépins.
C'est une constatation, mais en tout cas, la commune a mis tout son cœur.
Mais je ne parle pas des bonnes intentions, il n'y a que des intentions pour autant, c'est pas là.
Très bien.
On discute de politique.
Alors, juste si je peux me permettre, le fonds de roulement diminue de 34,77% pour 2018, pour aller dans votre sens, par rapport à ce que vous venez de dire et notre volonté d'investir. Et une deuxième remarque aussi, d'où le fait que sur les nouveaux investissements, on va certainement aller un peu plus sur des APCP au lieu de prévoir, mais de toute façon, il faudra toujours cette même prudence, c'est-à-dire que même en APCP, quand on va réaliser les gros investissements, il faut quand même, enfin, je ne sais pas, mais même en tant que particulier, quand vous commencez une maison, vous vous assurez toujours d'avoir le budget jusqu'à la totalité de la réalisation de la maison. J'allais dire, c'est du bon sens après, utiliser de la même façon sur les finances publiques.
A contrario, si on prenait le raisonnement inverse, on pourrait dire on va emprunter 3,5 millions, puisque c'est le besoin de financement pour mener à terme ces projets dont nous n'avons pas le financement complet. Et on a dit qu'on les débloquerait au fur et à mesure de l'avancement des projets. C'est-à-dire qu'on est dans une capacité de remboursement de la dette de 3 ans, on s'est fixé comme maximum 7 ans, et on reste dans ce périmètre. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas nous accuser quand même de garder l'argent sous le coude.
Simplement, ce que je vous dis, c'est que vous avez augmenté les impôts en début de mandat. Donc vous avez une manne. Vous allez emprunter...
Une ressource.
Ça fait une ressource. Vous allez emprunter, c'est une deuxième ressource. On aurait pu tout à fait le mettre dès le début du mandat et faire le phasage pour accélérer on serait peut-être à la moitié de nos projets déjà réalisés. Sachant qu'on allait le faire. Bon, après, si vous me dites, non, on a fait quelques
Ce n'est pas la capacité financière qui nous a retardés. C'est la difficulté de certains dossiers qui sont complexes, qui sont longs, on n'en finit jamais. Regardez les opérations d'habitat aujourd'hui, elles sont toutes attaquées par les concitoyens. Ils ne veulent pas de la densification en centre-ville, et pourtant il faut la faire. Il faut expliquer. Nous essayons de le faire. Respecter l'environnement. L'environnement, pas l'environnement avec un E majuscule, l'environnement, le contexte. Voilà. Et c'est extrêmement difficile.
À l'école de Wall, par exemple.
Voilà. Non, mais moi, j'ai lu une tribune en disant qu'il fallait vraiment écouter tous les voisins. Il faut écouter les voisins, il faut aussi écouter nos gamins qui sont pas logés.
À un moment donné, il faut avancer. Et c'est pas toujours pour les meilleures raisons que les permis sont attaqués, vous le savez comme moi. Donc c'est une difficulté, c'est pas manque d'ambition, et puis aussi, il y a une incapacité des services, le service technique par exemple, une incapacité à suivre un certain nombre d'améliorations dans le patrimoine scolaire. Vous le verrez tout à l'heure, on y met 500 000 euros, on n'y met pas rien. Donc il faut arriver à suivre les dossiers. Bon, on essaie aussi de ne pas externaliser ce qui peut être fait à l'interne, parce que ça valorise nos collaborateurs. À un moment donné, on est capable, nous, de consommer, je vous l'ai dit, 6 millions, 6 millions et demi. Il en a un peu plus, il en a un petit peu moins. Voilà. Vas-y, Caroline.
Alors, sur la deuxième partie de la présentation du budget, qui est, je vous rassure, c'est vraiment une présentation beaucoup plus concrète. Donc, on a fait un autre camembert, enfin, le service comptabilité a fait un autre camembert, où vous avez la somme des dépenses de fonctionnement et d'investissement, vous avez les montants et toujours pareil, la répartition au prorata du budget. Alors, ce qui me semblait intéressant, c'est de savoir ce qui allait se faire. Donc, j'ai posé la question à chaque adjoint pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de leur budget pour 2018. Donc, l'Office du tourisme, par exemple, sur 2018-2019, souhaite travailler sur la promotion de Mogio à l'année et veut travailler sous forme de PAC. Alors, un exemple, un dimanche à Mogio, par exemple. Et ce sont des projets qui vont nécessiter un travail à la fois de construction et en même temps d'accompagnement au niveau de la communication. L'Office du tourisme souhaite aussi prendre de l'envergure par une présence plus forte en mobilité sur notre territoire, mais aussi sur le Grand Montpellier et dans des salons hors département, pour faire venir les gens jusqu'à nous, bien sûr. Il y a aussi des projets, des modifications de l'équipe par rapport aux projets touristiques. Et puis, surtout, nous sommes en attente de retour d'une étude sur le tourisme sur Mogio. Et selon, bien sûr, les retours, il y aura aussi des projets sur 2018. Alors, j'ai aussi, par exemple, sur la délégation du devoir de mémoire en 2018. C'est la dernière année de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a eu notamment la plantation de 67 arbres qui représentent les 67 noms des poilus qui sont inscrits sur le monument aux morts. Sur cette même délégation, mais pour l'international, nous avons la venue en 2018 d'une délégation de responsables administratifs de la ville de Midoun en Tunisie et la quinzaine allemande aussi sur 2018 sur des projets plus importants. Au niveau de l'urbanisme pour 2018, il y a le gros projet de révision du PLU. Pour les scolaires, il y a la création d'un parvis d'entrée sur l'école Jean Monnet, la réfection de la cour maternelle Jean Monnet, le remplacement des menuiseries et de panneaux de l'école de Carnon. Et surtout, 2018, nos bambins de la commune, c'est l'année où ils partent tous en classe de neige et en classe découverte. Au niveau de l'administration, nous avons sur 2018 des équipements vidéo des différentes salles. Alors, vous avez la salle du conseil qui va avoir un équipement qui évitera que vous vous tordiez les vertèbres et abîmez les yeux pour voir les petits chiffres. Donc, ce sera beaucoup plus pratique. Il y a aussi l'aménagement de la salle Aimé Césaire à Carnon et de la salle de l'horloge. Tout ça, ben, c'est pour répondre à une modernisation et à une e-démarche, donc il y aura aussi des investissements de logiciels. Et puis, bien sûr, le déploiement de la e-administration sur 2018. La délégation de la communication, il y a un gros accompagnement du schéma directeur pour informer les citoyens, l'accompagnement des travaux pour le yacht club, le château et l'île au Prévert. Vous avez vu, je pense, en arrivant ce soir, le cube qui est placé à côté de l'entrée. Voilà, c'est un exemple concret de ce que fait la com pour accompagner tous nos projets. Le renforcement de la communication sur la Romeria. Alors, ça fait le lien avec la délégation des festivités, puisque cette année, ce sont les 30 ans de la Romeria. Au niveau de la culture, il y a aussi les festivals PCHIT, qui est une nouvelle forme de festival plus créatif, pas différent. La délégation de la police, il y a des équipements de scooters, trois roues, pour plus de sécurité pour les agents qui font le lien entre Mobio et Carnot. Au niveau du sport, nous avons l'amélioration à la fois de la qualité et aussi de l'éventail du proposition des sites sportifs. Alors on a par exemple Basket Street qui va être créé sur la City et le Street Workout qui sont tout simplement les agrès qui vont être placés sur la plage à Carnot, puisque l'adjoint au sport me l'a certifié, l'été sera sport. Ensuite, j'ai la délégation de des services techniques au niveau des secteurs du bâtiment. Donc, il y a trois grosses opérations. L'aménagement de l'île au Prévert avec le démarrage effectif des travaux pour le second trimestre. La première tranche de mise en conformité et d'accessibilité des établissements recevant du public, qui couvrira l'intégralité des bâtiments scolaires, élémentaires et maternels. Travaux second semestre 2018 pouvant déborder un peu sur 2019. Et le troisième gros point, c'est l'amélioration du patrimoine bâti scolaire. Ça, je vous ai donné le détail, notamment avec l'école Jean Monnet. Au niveau du secteur de la voirie, vous avez 1,7 million d'euros qui seront consacrés à la requalification de plusieurs voies urbaines telles que l'avenue Jean Moulin, les rues des Embruns, du Saut du Loup, François Villon et Pablo Picasso. Des travaux d'amélioration du pluvial avec 1 million d'euros consacrés à l'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales de part et d'autre de l'avenue Jean Moulin. La rénovation de notre éclairage public en 2018 qui portera sur le remplacement de 4% de notre parc, les mâts et les lanternes LED, pour un montant de 330 000 euros. Ce qui est identique aux trois années précédentes. Voilà, donc ça, c'était les points plus concrets, j'allais dire, pour savoir concrètement où va aller l'argent sur 2018. Donc, en conclusion, alors, je suis censée vous faire un petit point quand même sur la dette, même si on en a parlé au DOB. Donc, comme je vous disais, nos prêts sont en train d'être revus. Et à ce moment-là, je vous communiquerai directement les nouveaux taux et les économies, surtout réalisées sur les années qui arrivent. En conclusion, sur le budget primitif de Mobio Carnot pour 2018, eh bien, pour les trois années consécutives, les taux communaux de fiscalité restent inchangés pour les Melgoriens et les Carnonais. C'est à signaler, puisque toutes les communes ne sont pas dans ce cas-là. Grâce aux efforts poursuivis par la municipalité, il y aura en 2018 une hausse de plus de 40% des dépenses d'investissement par rapport au budget précédent. Nous avons, en matière d'investissement, le budget est de préserver, comme vous le dites en introduction, monsieur le maire, préserver et améliorer la qualité de vie de nos administrés et préparer l'avenir de notre ville, puisque le schéma directeur nous donne cette ouverture-là. C'est effectivement un outil qui nous permet de voir sur un futur beaucoup plus loin que le mandat des ambitions pour notre ville Mobio Carnot.
Des réactions? Tu prends le port tout à l'heure?
Oui. Oui, d'abord, s'il y a des questions, et puis on fait le port après.
D'accord. Prise de parole. Monsieur Capelletti.
Ah oui, alors bonsoir. Donc, dans le dernier conseil municipal, on avait, nous avions mis l'accent sur le fait, sur trois points. Bon, le premier était que, quand on regarde en fait les impôts et taxes collectés, depuis 2014, on est passé de 21,8 à 23,2, enfin il y a 1,4 million en plus. Et comme la dotation globale de fonctionnement a diminué sur la période de 1,7 million, en fait, finalement, cette baisse de dotation a été absorbée, certes, par des efforts de la municipalité, à hauteur de 20%, mais en réalité à 80% par des efforts des contribuables. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. C'est-à-dire, quand on dit que la municipalité a fait des efforts, c'est vrai, mais les plus gros efforts ont été faits par les contribuables. Donc, il va falloir les récompenser à un moment donné. La question, c'est comment ? Eh bien, nous avons la réponse.
J'allais vous dire, j'ai déjà une petite idée.
Voilà, vous avez une petite idée. Alors, nous avons la réponse, pourquoi ? Parce que, comme tous les états financiers de France, de Navarre, communaux, vous savez que les états financiers regorgent de recettes et de dépenses cachées. Et alors, cette année, dans ce budget, on en avait aussi parlé, c'est le deuxième point, donc au dernier conseil municipal, il y a une recette cachée. Alors la recette cachée correspond donc aux 22 500 heures de travail supplémentaires qui vont être réalisées par les agents sans augmentation donc de leur rémunération grâce au passage
aux
35 heures. Alors nous avons évalué ce montant, j'avais donné un chiffre à la louche, on a retravaillé dessus.
1607 heures. Au passage, pour 1607 heures, pardon.
Voilà, 1607 heures par an, ce qui en tout fait 22 500 heures en plus de production de services publics par an. C'est-à-dire 14 équivalents temps plein. Donc c'est comme s'il y avait 14 personnes supplémentaires dans la mairie recrutées gratuitement, puisque les salaires, eux, ne bougent pas. Alors une estimation de cette création de valeur, parce que si effectivement les agents travaillent, et on n'a aucune raison d'en douter, sur ces 22 500 heures supplémentaires, ils vont créer de la valeur qu'on avait estimée au minimum, donc à, et on a retravaillé un peu dessus en commission, à affiner, mais ça va faire de l'ordre de 400 000 euros. Donc, je suis heureux ce soir d'annoncer un scoop. Il y a, dans les états présentés, 400 000 euros de recettes cachées. Alors moi, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Bon, on en a déjà parlé, donc vous le savez, mais je
ne me permettrai pas de vous couper.
Alors déjà, il va falloir le mesurer. Voilà, la première chose, c'est de mesurer, de bien s'assurer que ces heures, effectivement...
De mesurer et de l'ajuster, parce que c'est 400 000 euros, comment dire, en économie, toutes choses égales par ailleurs. Donc, on fera quand même un travail d'ajustement.
Voilà. Mais on peut quand même penser que les 22 500 heures, c'est beaucoup. Quoi. Ah, oui. 14 personnes.
Je suis d'accord. Bon.
Ça, on va pas se volatiliser.
Ça, bon. Ça,
donc, 400 000 euros, bon, en plus, c'est un minimum, on avait dit. Hein. C'est-à-dire que je donne pas le chiffre... De création de valeur maximale. C'est beaucoup plus, en fait. Mais 400 000 euros. Alors, je vous propose de prendre une sécurité et donc de travailler sur 200 000 euros. Bon. Petite information, d'ailleurs, c'est très bien, je l'avais dit la dernière fois, donc c'est très bien d'avoir fait cet effort de passer aux 35 heures effectives. Si on l'avait fait dès 2014, on aurait pu éviter d'augmenter les impôts. Voilà. Parce que 400 000 euros, c'est le montant des impôts annuels. Mais il vaut mieux tard que jamais. Alors, prenons que 200 000 euros. Vous gardez 200 000 euros pour vous, hein, pour la capacité de financement, pour le budget. Et sur les 200 000 euros, 100 000 euros pour le contribuable, donc en diminution d'impôts, et ça correspond en fait à l'augmentation. Parce que quand vous dites que les impôts n'augmentent pas, vous avez raison, par décision de la municipalité. Mais en fait, tous les ans,
la base augmente
par Bercy. Donc, 100 000 euros pour diminuer les impôts du montant de l'augmentation par Bercy, comme ça on est sur une vraie non-augmentation d'impôts. Et M. le maire m'a dit que ce serait la deuxième fois de l'histoire dans Mouillot que ça se produirait. Je pensais que c'est la première fois, mais en fait, non, c'est déjà arrivé une fois.
Nous avons baissé les impôts l'année où il y a eu l'exonération de la taxe additionnelle au niveau de l'agglo. Nous avons été la seule commune à le faire pour ne pas prendre deux fois dans la poche des Melgoriens le transfert des charges du Cibon.
C'est ça.
On avait baissé de combien ? La moitié de l'augmentation, c'était ?
Voilà.
On avait déjà fait.
Voilà. Donc, ce serait la deuxième fois de l'histoire, ce qui serait bien.
Le Cibon l'a repris depuis, hein, c'était calme, hein, c'est pas riche.
Et donc on connaît l'importance donc de en termes d'image, de symbolique, d'argent qui serait réinvesti localement, on en a déjà parlé. Et puis donc de garder une partie, donc pour, puisqu'on est dans une logique de vous aviez retenu l'expression, et j'en suis heureux, donc de productivité publique socialement responsable, et donc de garder une partie de cet argent, de cette recette, de cette cagnotte finalement, même si j'aime pas trop ce mot, pour en fait intéresser les agents méritants justement à des efforts de productivité publique. Donc c'est sans risque. Il faut simplement en fait mesurer et prendre la décision. Et comme ça, on aurait aussi une utilisation de la solidité. Hein, moi aussi, j'ai souligné que de façon visible, en fait, le budget était géré de façon solide. Il faut que cette solidité, on s'en serve, elle serve à quelque chose, hein, qu'elle soit pas, qu'elle conduise pas à une prudence excessive ou à un immobilisme, voire même à, j'aime bien le mot, de la pusillanimité. Je l'ai casé, c'était un pari que j'avais fait avec un ami. Bon, voilà la proposition.
Effectivement, nous avons eu, M. Grappelletti, l'occasion d'échanger sur ce sujet. C'est vrai que vous êtes dans la sphère, dès lors que vous mettez dans la sphère privée, la notion de productivité, de valorisation de l'heure de travail et de ce qu'elle induit pour celui pour lequel la personne travaille, ne sont pas les mêmes considérants que pour une collectivité où nous sommes dans un secteur non marchand. C'est-à-dire que la théorie s'entend. Mais la pratique, comme je vous ai eu, personnellement, j'ai eu l'occasion de vous en parler la semaine dernière, était de dire, eh bien, à la fin de l'année 2017-2018, nos services administratifs, techniques, nos services support, auront fait plus de choses pour nous administrer, et dans le même temps, nous aurons eu moins recours à l'externalisation des services qui sont un gain, C'est une économie. Donc, quelque part, il y a un gain de productivité, c'est pas un gros mot, et un gain de productivité dans la collectivité. De là à dire que nous pouvons, la masse salariale, elle est la même. Il n'y a pas d'allègement, il n'y a pas. Le travail que font nos collaborateurs n'induise pas ipso facto une recette complémentaire qui pourrait nous permettre de nous dispenser. D'encaisser le produit de la taille de l'augmentation des bases et de le rendre aux administrés. Oui ?
Je peux pas me couper, si ces 22 500 heures sont utilisées pour faire des choses utiles, il n'y a aucune raison de penser qu'elles vont être passées à faire des choses inutiles.
J'espère bien.
Mécaniquement, c'est pour ça qu'il y a au moins 400 000 euros. Ça va se traduire par des heures supplémentaires payées en moins, qui étaient payées pour financer ces heures qui n'existaient pas. Ben, bien sûr que si. Bien sûr que si, puisque du coup, ces heures rentrent dans le salaire des gens. Quand je travaille 32 heures, que je suis une heure de plus, j'ai une heure supplémentaire de payer en plus. Quand je suis à 35 heures, cette heure de plus n'est plus payée, premièrement. Deuxièmement, des contractuels en plus, à hauteur de 15. C'est 15 travail, 15 emplois hommes et femmes. Des contrats de sous-traitants en moins. Et puis en plus, quand on travaille sur une plage plus longue, il y a un fractionnement, donc je ne suis pas rentré dans ce détail-là, mais en plus, il y a une économie de surtemps, etc. Donc, des économies, si vous n'en avez pas, alors c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais mécaniquement, il y en aura.
Bien. Écoutez, c'est la démonstration de table noire. Votre voisin s'amuse bien. Et moi, je fais le pari que d'ici la fin de l'année, sans que cela ait pu nécessairement induire, et je le regrette, une baisse des impôts, ça peut et ça doit, et ça se traduira, je n'en doute pas, par un gain de productivité et par disons, des missions qui seront mieux accomplies, n'est pas le terme, plus largement accomplies qu'elles le sont aujourd'hui. Nous avons affiché des ambitions sur la propreté, c'est des moyens, et ça n'est pas rien. On va au bout, enfin, on va au bout. Nous essaierons d'aller au bout des choses. Hein. Nous essayons de travailler sur les modes de déplacement. Il y a quand même. On investit l'espace public d'une manière différente. Je pense que les curseurs, et c'est aussi la vertu de la discussion, votre rôle est de dire vous voulez ça, allez-y. C'est passé. Encore un peu plus. On est, il y a les Jeux Olympiques là-bas, en Corée. Bon, on n'est pas dans les Jeux Olympiques, mais on est vers des indicateurs de plus en plus performants, même si nous travaillons avec de l'humain. J'ai mis aussi cette réserve. On a des services aussi qui étaient des services qui étaient qui faisaient déjà le temps de travail. Donc, tout ce... Je ne voudrais pas non plus laisser à penser que parce que les fonctionnaires ont travaillé un temps supérieur, nécessairement, on doit tout attendre de ces... De cette nouvelle opération. Nous en attendons beaucoup. Nous en attendons beaucoup.
C'est pour ça que, deux points, et puis après j'arrête. Donc c'est pour ça que, qu'il est légitime que si ces heures supplémentaires remises en production se traduisent par de la productivité en plus, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y en aura pas, et par des économies en plus, c'est mécanique, les agents doivent être récompensés sur objectif. C'est pour ça que je nuance mon propos. Une partie pour récompenser les contribuables et une partie pour récompenser les agents. Deuxièmement, c'est vrai qu'à l'échelle d'ici, ce que je dis, c'est encore du tableau noir, mais vous savez très bien que, très concrètement, dans un certain nombre de municipalités et de collectivités locales, c'est de la pratique. C'est-à-dire que ce que je dis n'est plus du tableau noir pour, et heureusement, et il le sera de moins en moins.
Quelle somme on affecte des 400 000 pour récompenser les fonctionnaires?
Justement, par sécurité, sur les 400 000, on n'en prend que 200 000, on laisse 200 000 à la commune pour sa CAF, sachant que 400 000, c'est déjà un montant minimal, hein, c'est-à-dire que le montant maximal est bien plus important. Et sur les 200 000, 100 000 en impôts et 100 000 pour les agents.
Quand je vous disais aussi tout à l'heure qu'il fallait vraiment affiner le montant, sachant aussi qu'en 2018, Et 2019 sont deux années où il va y avoir une surcharge d'investissement et donc de travail, sollicitation demandée forcément aux équipes. Donc c'est là où le calcul, enfin le chiffrage est compliqué, même si j'entends bien qu'on peut prendre des marges de sécurité.
Je vous suis, mais vos surcharges, elles y sont pas non plus dans le budget. Oui. Donc
Bon, si l'on résume, nous avons pris une bonne direction et vous posez une exigence un peu plus. Vous voulez poser une exigence pratique qui se traduise en espèce sonnante trébuchante.
C'est ça.
Voilà. Alors, nous, on est animés du même espoir, mais au titre du pragmatisme dont j'ai essayé de dénoncer certains principes, j'espère pouvoir le faire, mais je doute aujourd'hui, si nous avions senti que nous pouvions le faire, nous l'aurions déjà fait. Voilà, mais peut-être devons-nous encore explorer. M. Balzamo, une intervention, et puis on passe à autre chose. Rapidement.
Votre démonstration, elle est brillante, bien entendu. Mais comme disait M. le maire, nous sommes pragmatiques, et en revanche, on a l'été la bouclette de l'augmentation de 1,2 du budget de fonctionnement dans les années futures, donc ça nous laisse un peu de gras entre guillemets pour justement ne pas dépasser cette augmentation pour être vertueux.
Bon.
Monsieur Pardin. Juste pour rappeler un chiffre, la pauvreté à Bouillot, c'est 11% des populations. Donc quand vous avez dans une classe de Montgio, quand vous avez un peu plus de. Quand vous avez un peu plus de 20 gamins, si vous en avez 25, vous êtes sûr d'avoir deux ou trois petits qui sont touchés par la pauvreté. Ça nécessiterait qu'on ait, c'est une vraie question,
qui nécessite des politiques de détection dans notre fonctionnement. On la détecte moins bien qu'avant, la pauvreté. Elle est à d'autres endroits et on n'a pas redéployé tout l'ensemble de nos outils pour la détecter. Donc, moi, j'aimerais que dans notre budget fonctionnement, on ait quelques outils. Pareil, sur le chômage, on est toujours un peu au-dessus de la moyenne nationale. Il y a peut-être des politiques d'accompagnement. Le développement économique, c'est l'aglo. Mais il y a peut-être des politiques d'accompagnement de nos chômeurs et on a peut-être une réflexion à avoir pour réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on a plus de chômeurs qu'ailleurs. Je vous ai parlé longuement de la nécessité d'investissement. Je vous ai donné les chiffres. En gros, en part par habitant, on investit deux fois moins. Prenez cet ordre de grandeur, deux fois moins par habitant que ce qu'on faisait il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant, quand M. le maire a pris les rênes de la ville. Donc il nous disait qu'on était en capacité d'écouler, de passer 5 millions d'euros. À l'époque, on en passait 10. J'ai votre disposition des graphiques. Donc on se retrouve avec des investissements moindres. Je reviens, vous avez pris l'exemple, l'investissement, c'est pas forcément. Ça va être aussi dans la catégorie fonctionnement. Vous avez pris la question de l'office du tourisme. Bon, ça fait 3 ans qu'on a des réflexions sur notre budget qui est constant, qui ne suit pas la taxe de séjour qui augmente. On la contrebalance par une moindre subvention de la ville. Ce qui fait que, par exemple, on a des faiblesses et les adjointes qui sont sur le terrain ont dû entendre la même chose que moi. Les commerçants se plaignent que sur nos animations, on n'est pas tout à fait ajusté comme on devrait le faire. On devrait mettre un coup d'épaule sur nos animations. Vous avez parlé de diversification de nos politiques, c'est une bonne chose, et moi je suis d'accord avec ça. Mais sur la qualité de nos animations et sur les moyens qu'on y met, il y a aussi une question qui est posée par les professionnels. Et quand on investit là, on a du retour en taxe de séjour, et on a du retour en emploi, on a du retour en mieux-être, et on a un patrimoine de meilleure qualité. Si ça loue mieux, c'est mieux entretenu, donc ça, c'est typiquement des politiques d'investissement, même si c'est en fonctionnement. On a des faiblesses sur notre capacité à prévoir, sur le temps long, moi j'ai souvent des discussions avec M. Talon, qui disait à l'époque investissez maintenant, les taux sont faibles. Il disait ça dès le mandat précédent et il me rappelait toujours en étant désespéré la réponse que faisait M. le maire à l'époque. Il disait je regarde mon assiette et je prends pour ce repas d'aujourd'hui, je ne prends pas pour le repas de demain. C'est une logique privée, d'ordre privé, d'ordre familial, et qui ne fonctionne pas quand on doit être leader sur un territoire. J'attire votre attention sur le fait que pendant ce temps-là, la Grande Motte a des projets à entre 20 et 40 millions d'euros sur son propre investissement, sur sa propre ville. Et ce n'est pas par hasard. Il y a une question de leadership sur le pays de l'Or. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Donc là, vous avez... Bon, moi, j'ai bien noté que vous avez réussi à libérer les dessous de tapis.
Non, sais pas... ça s'appelle le fonds de roulement.
Le fonds de roulement.
Il n'y a pas de dessous de tapis ou de caisse, il y a un fonds de roulement.
Vous l'avez libéré, je ne sais pas qui il faut féliciter, mais qui soit félicité.
Non,
et ça permet d'afficher un budget beaucoup plus important. Vous avez en plus... renoncer au BS, ce qui vous permet d'afficher tout de suite un budget. Ça c'est une écriture, parce que au BS on va se retrouver, je suis sûr qu'en fin d'année on se retrouvera la même chose, et vous faites un emprunt. Cet emprunt là vous auriez pu le faire en début de mandat, vous avez décidé de le faire maintenant. Vous avez expliqué que vous aviez un temps de préparation. Le temps de préparation, quand on est aux affaires depuis autant de temps, le temps de préparation aurait pu être pensé le mandat précédent. C'est le reproche que peuvent vous faire les électeurs de Montguyon.
J'aurais fait un emprunt avec un fonds de roulement ?
Non, non, non.
Je vous parle.
Oui, mais ça veut dire ça. Vous êtes en train de me dire que j'avais trop de fonds de roulement et vous me dites que vous n'avez pas fait d'emprunt.
Non. Moi, je vous dis, madame, que. Alors, quand vous me dites fonds de roulement, c'est gentiment habillé. Moi, je vous dis que si je prends encore une fois le jardin du Bosquet à Carnon, les 80 000 euros, ça fait quand même 4 ou 5 ans qu'on en parle. Donc, et ça ne s'appelle pas un fonds de roulement, ça s'appelle un investissement qui n'a pas été fait. Donc je vous dis simplement que ça aurait pu être fait et que la préparation de ces dossiers aurait pu être faite, puisque vous étiez une majorité sortante, aurait pu être faite dès le premier jour du premier mandat. D'autres équipes, si elles avaient été élues, auraient été plus rapides que vous. C'est ce que vous reprochez les Maigouriens et les Carnonais.
Certains, M. Prodeil, je vous laisse bien sûr, comme d'habitude, la responsabilité de vos assertions. Dans l'ordre, l'investissement, vous regarderez les communes des mêmes strates, ce que les investissent autour de chez nous. Je ne vous permets pas d'affirmer de manière aussi péremptoire que nous investissons moins qu'il y a 10 ans et que nous ne sommes pas dans l'investissement productif. Par rapport à la politique sociale de détection des gens en difficulté, il y a un travail remarquable, Mme Grèce ne dira pas le contraire, même si elle n'est pas elle est dans l'opposition municipale, mais elle est dans la construction humaine. Elle pourra vous dire que nous avons des affectations régulières de gens que nous aidons par l'épicerie sociale, l'épicerie solidaire, et également pour boucler les fins de mois, et qu'évidemment, ces noms ne se publient pas en conseil municipal, qu'on va vers une professionnalisation du CCAS, que toutes les fois qu'une personne part à la retraite, nous essayons de compléter la mosaïque des compétences avec des personnes qui sont à l'écoute et qui essaient de travailler avec la banque alimentaire, qui essaient de travailler avec le département, qui essaient de travailler avec l'aide sociale. Ce travail-là, je vous rassure, il est fait. Et par rapport au schéma directeur, vous dites que je regarde dans mon assiette, bon, ça peut vous amuser de le dire.
Non, c'est vous aussi, je vous ai dit.
Je dis simplement, non, je vous ai dit, moi je regarde l'argent que j'ai dans ma poche. Aujourd'hui, si nous sommes. Quel est l'objet de pour un petit peu lever le débat, ou lui redonner la hauteur qu'il ne devrait pas perdre, même si je peux comprendre que de temps en temps, l'attraction terrestre passe un peu par une forme de critique qui forme un petit peu le sujet. C'est un petit peu normal, c'est un exercice de style. Nous sommes dans un budget qui est ambitieux, un budget où nous développons par un moyen qui est le schéma directeur, une vision de développement de la commune sur dans les 15 années à venir, 15 ans, 20 ans à venir. Cette affaire n'avait jamais été faite, je l'ai souligné tout à l'heure, par une absence de PPI, même si nous avions en tête les sommes que nous étions plus ou moins en capacité de consacrer. Ces PPI, aujourd'hui, nous les affichons, nous les discutons avec vous, en commission finance, ils sont critiqués, ils sont amendés, et ils sont transparents. Donc, cette vision de refonder, je rappelle, M. Pradeil, que le dernier PLU, le poste de l'époque, date de 2006, qu'il avait donc étudié dans les années 2004. Donc ça va faire 14 ans, bientôt 15 ans. Et que si réviser un PLU en essayant de refondre la circulation, le stationnement, l'occupation de l'espace urbain, travailler sur les densités, dire à tel endroit je veux un peu plus de ville sur la ville, à tel endroit je n'en veux pas, définir des polarités, travailler sur la typologie, vous en êtes un artisan, des nouvelles constructions en mettant des activités commerciales dans des lieux de vie. Si imaginez un projet comme la Fonde Moguio, au lieu de faire des lotissements bêtement les uns derrière les autres et des murs en empilant des quairons, on essaie d'en faire un espace où les gens se rencontrent, un espace de vie, où on essaie d'agrandir les espaces mis à disposition en essayant d'intégrer les problèmes hydrauliques. Donc, si tout ça n'est pas déployer une vision et être en rupture peut-être avec certaines habitudes, j'ai parlé tout à l'heure d'une vue. J'ai dit que la ville, notre ville, elle se transforme. Les Carnonais aujourd'hui, ce n'est pas les Carnonais d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et les Maigouriens non plus. Notre ville est tellement enviée, elle est bien enviée parce que justement, nous essayons de concilier un développement respectueux de ce qui sont les valeurs patrimoniales et les valeurs environnementales. Nous essayons donc, dans une vision qui s'appelle, enfin, on l'appelle chemin directeur, on peut l'appeler comme on voudra, on y donnera notre nom. On est dans une opération d'urbanisme de 19 hectares, pas de 30 certes, mais qui n'avait jamais été auparavant menée. Donc c'est quand même, et qui est dans une concession qui va jusqu'en 2030. Si ça, l'extension du village n'est pas une vision, écoutez, je regrette. Si le fait de vouloir retravailler sur la disparition du véhicule en bord de mer, le travail des promenades à Carnon, essayer de mettre en valeur le canal, essayer de mettre en valeur les potentialités de la ville, restaurer le château à Mogliot avec le réinvestissement d'une école qui est un lieu d'éducation en un lieu dédié aux associations. Si ça, ça n'est pas quand même faire preuve d'une vision pour le futur, comme nos prédécesseurs, quand ils ont fait la médiathèque en 94-95, ont travaillé pour le futur. Bon, je pense que nous sommes dans une vision. Qu'après vous ayez des appréciations personnelles pour critiquer telle ou telle gestion, c'est votre rôle, mais je ne peux pas, de manière, j'allais dire, sérieuse, laisser planer le doute sur cette volonté de nous projeter et de voir la ville de ce qu'elle sera dans les 15 à 20 ans qui viennent. Et puis, bon, chance à certaines d'avoir eu, de la part de l'État, le cadeau par la mission Racine d'une ville toute prête, tant mieux. Et moi, je suis ravi que ces Farossignols développent la ville-port à la Grande Motte. Nous, en attendant, ça fait quand même 5 ou 6 ans qu'on a mis 5 ou 6 millions d'euros pour refaire les pannes, pour refaire les quais, on refait la capitainerie. Je pense que nous ne sommes pas en reste. Je pense qu'on s'occupe activement de tout ce qui est là, non seulement la vitrine, mais l'économie touristique. Et aujourd'hui, bon, il n'est pas dans les compétences de la commune de parler de l'économie au sens productif du terme, puisque c'est une compétence déléguée au niveau de l'aéroport. Mais je peux vous dire qu'avec toute l'équipe, avec Bernard Cassard, au quotidien, avec tous ceux qui m'entourent au niveau de l'économie, eh bien, la commune de Mogliot-Cardon est un fer de lance de la promotion de l'aéroport, avec la vision que nous avons du territoire, avec la vision que nous avons de l'urbanisme, avec cette vision facilitatrice de faire de notre aéroport un ancrage régional, et en travaillant, en participant financièrement à des opérations routières, on va y venir tout à l'heure, alors qu'au départ, ça n'est pas forcément notre compétence, tout en respectant quand même l'équilibre rural, la consommation des espaces. Je pense que là-dessus, je suis convaincu que nous portons une vision et que nous portons une vue prospective. Qu'à votre goût, on n'emprunte pas suffisamment, c'est un vieux débat.
Bernard Favre,
disons, qui était adjoint pendant 2 mandats, se voyait reprocher même par Jacques Chabot, que vous connaissez bien, puisqu'il était dans la gouvernance avec... J'ai même été avec Jacques Chabot, nous reprocher systématiquement de ne pas emprunter suffisamment. Eh bien, nous considérons qu'une dette maîtrisée nous permet à nous d'avoir une épargne nette supérieure à ce qu'elle serait si on était un peu plus plombé. Et je pense que ces équilibres, ces arbitrages, participent de l'équilibre qui n'a rien à voir avec une vision passéiste d'une gestion, mais avec justement le sérieux d'un service de proximité, un service, un guichet de service au quotidien, tout en maintenant quand même une vision, quand même, j'allais dire, d'une transformation de la ville compatible entre son histoire et son avenir. C'est-à-dire ne pas bousiller, excusez-moi le terme, l'environnement, ne pas bousiller l'état de l'or, ne pas bousiller cet écrin dans lequel on est, et peut-être qu'on n'y va pas avec une grosse bouche, non, peut-être pas. Mais de temps en temps, j'allais dire, allez vous promener, je pense que la vision du lotissement telle qu'elle a été déployée pendant toutes ces années, aujourd'hui, peut laisser place à une vision au niveau de la faune de Mogliot, où vous avez apporté votre concours dans, justement, la volonté de créer du logement social. Voilà. Bon. Après, chacun se fait son idée sur ces choses-là. Hein. Voilà. Donc, je vous propose de revenir sur les interventions relatives à la présentation de ce budget prévisible. Est-ce que d'autres personnes désirent prendre la parole? Non?
On va le voter?
Il vaudrait mieux? Oui. Bien. Donc, je demande ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont pour. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre participation au débat.
Les 4.
Oui, les 4. Caroline, tu viens continuer?
Oui, j'enchaîne avec le budget primitif du port de Cardon pour l'année 2018. Donc, même chose, on va détailler la section de fonctionnement et la section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, donc, le montant des dépenses et des recettes s'élève à 2 319 221 000 €. Et pour la section d'investissement, la recette et dépenses, 452 492. Pour la section de fonctionnement, au niveau des dépenses de fonctionnement, alors, quelles sont les dépenses essentielles pour le fonctionnement du port de Cardon? il y a la prise en compte de l'augmentation du carburant qui est revendu à la station de ravitaillement, l'augmentation du poste d'eau compte tenu de la mise en service d'un bloc sanitaire et de bandes de rinçage au niveau du parc des Rivers qui a été livré en 2017, le doublement du réseau électrique alimentant le bassin Est, la prise en compte de l'entretien d'un nouveau bloc sanitaire avec l'achat privilégié de produits d'entretien bio, le renouvellement des stocks de badges magnétiques d'accès et de clés de cadenas. Il y a eu le renouvellement des chaînes vieillissantes du stockage à terre, ainsi que la réfection de pieux vétustes sur le ponton d'une A, la révision des engins de manutention, le remplacement des pneus de l'engin de secours du stockage à terre, l'assistance à maîtrise d'œuvre de leur aménagement pour la constitution du nouveau cahier des charges de la concession portuaire. Voilà, donc ça, ce sont les dépenses les plus importantes pour les charges à caractère général. Pour les charges de personnel, donc l'équipe du port compte à présent 14 agents publics et 2 privés depuis le changement juridique de 2015. Référençant désormais les ports de plaisance en service public, industriel et commercial. Ensuite, au niveau des charges financières, bon, il y avait, ça, elles intègrent les échéances de l'emprunt de 250 000 euros du parc à des Rivers. Au niveau des recettes de fonctionnement, donc, pareil, hein, les recettes les plus significatives, nous avons la vente, donc les recettes essentiellement du port, c'est la vente et prestations portuaires qui dégagent les ressources budgétaires principales. Donc la revente du carburant, les manutentions, la vente des badges, je vous le disais, l'évaluation des contrats annuels qui est établie sur la base des tarifs prévus en 2018. Les postes à flot sont tous occupés et par contre on a 38 postes qui sont vides au niveau du stockage à terre, donc dont 14 non renouvellements en 2018. On l'avait souligné lors du DOB, les demandes en attente d'emplacement au stockage à terre sont d'un gabarit supérieur à ce que nous avons de disponible. Au niveau des escales, elles font l'objet d'une estimation prudente car les postes d'escale de la dune A seront transformés en postes annuels courant 2018. Au niveau des recettes de fonctionnement, vous avez aussi la subvention de fonctionnement de l'agence de l'eau qui est attendue au titre de participation de l'installation des cages à larves. Au niveau des autres produits de gestion, il y a pour 2018 l'augmentation non négligeable des amodiations de emprunt longue durée qui prend en compte la première annualité d'occupation du parking de l'hôtel Coste, soit 50 000 euros hors taxe. Toujours pareil, les contrats d'amodiation longue durée arrivent à échéance au 31 décembre 2018 et une mission a été confiée à la SPL de leur aménagement pour l'étude du nouveau cahier des charges à mettre en place. Donc une mise en concurrence devra être lancée en application de la nouvelle législation. Au niveau de la section d'investissement, donc pour les dépenses d'investissement les plus significatives, une étude de faisabilité pour l'installation d'une potence qui permettrait l'embarquement de personnes à mobilité réduite et une étude de sol préalable à la réhabilitation du stockage à terre. L'acquisition d'un logiciel de gestion de ressources humaines pour le suivi des plannings ainsi qu'un logiciel de maintenance des installations et ouvrages. Il y a aussi l'achat d'une débroussailleuse et brûleur thermique, le renouvellement du matériel bureautique. Et enfin, dans les opérations, donc tout ce qui est gros travaux, l'ajustement des honoraires issus de la relance du concours d'architecture pour le projet de la capitainerie, comme on vous l'avait dit, il était non recevable.
C'est un point qui sera exposé tout à l'heure.
Bon, alors je ne développe pas. Et le doublement du raccordement électrique du bassin Est. Au niveau des recettes d'investissement, elles proviennent pour partie du solde de la subvention départementale octroyée pour le parc à des Rivers et pour l'essentiel des amortissements sur opérations précédentes. Donc, en conclusion sur le budget du port, il est important aussi de souligner qu'il y a une poursuite, on l'avait vu lors du DOB, des provisions pour le financement des opérations de dragage. La politique tarifaire correspondante a été mise en place afin de satisfaire ces exigences, avec en concomitamment la recherche de solutions incitatives, donc à l'économie d'énergie, pour la mise en place de compteurs divisionnaires sur les prises de quai et à l'économie de l'eau, installation de temporisation sur les bornes de rinçage du stockage à terre et de l'air de carénage. Voilà pour l'essentiel du port.
Merci Caroline. Donc on en avait parlé l'autre fois, c'est un projet sur le stockage à terre, où on a quelques travaux à faire. Il faudra renouveler les étagères puisqu'elles ne correspondent plus aux normes actuelles. Et en termes de sécurité également, on a, dans les années qui viennent, il y aura un investissement relativement important. Et puis la relance de la capitainerie, et puis c'était Damoclès qui est le coût des dragages, où l'État nous aide dans nos prospections. J'espère qu'il nous aidera aussi à trouver une solution qui n'impacte pas le budget de manière aussi terrible que ce que certaines prévisions laissaient entendre. Là, aux dernières nouvelles, on était dans des sommes qui ne sont pas encore raisonnables, voilà, mais qui sont quand même moindres que ce qu'on pensait. On doit voir si on peut, disons, mutualiser via la région pour essayer d'avoir l'arrivée d'une barge gratuite et qui sera fait gratuite. Mutualiser l'arrivée d'une barge pour arriver avec les différents ports voisins à faire une opération qui serait donc moindre avec une aide de la région, une aide financière de la région également. Voilà. Mais ce n'est pas encore abouti. Donc, selon qu'on irait clapper en mer au large de Sète ou qu'on pourrait le faire peut-être plus près. Voilà. Donc, la modernisation bat son plein, c'est le cas de le dire, oui, on avance. Et disons, l'imputation des compteurs permet une meilleure répartition des contributions. Ceux qui consomment beaucoup paieront un peu plus que ceux qui consomment pas beaucoup. Voilà. On passe au vote, si vous voulez bien, de ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. On passe maintenant au vote des taux pour l'année 2018, toujours Caroline.
Donc les votes des taux, les taux restent constants, équivalents à ceux de 2017, puisque comme on vous l'a dit au niveau du débat d'orientation budgétaire, le produit assuré reste suffisant pour équilibrer le budget. Donc le produit attendu est de 11 857 000 euros. Taxe d'habitation reste à 14,68. Le foncier bâti 17,60 et le foncier non bâti 90,26.
Qui est contre cette proposition? Monsieur Perpetti. Qui s'abstient? Merci.
La chambre de droite.
Point numéro 4. Bilan des cessions acquisitions 2017, toujours Caroline.
Donc, il s'agit d'une acquisition à titre onéreux le couloir qui permet l'accès direct aux escaliers du château des Comtes de Melgueil pour un montant de 10 000 euros.
Mais qui était une nécessité pour mener à bien la restauration du château. Voilà, donc on vous demande de nous autoriser à cette façon de passer de négociations amiables. Pardon ?
On en avait déjà parlé, non ?
Oui. J'avais pas fait le bon.
Mais on prend acte du bilan. Non, c'est un prend acte, c'est un vote à prendre. C'est un porté à connaissance, prend acte. Bernard ? Tu nous parles de la délibération numéro 5.
Oui, il s'agit de la cession à titre onéreux des parcelles BW57 et BW332 à la société Amétis. Par délibération du 26 juin 2017, nous avions délibéré sur la cession de ces parcelles pour 410 000 euros. Le montage de l'opération qui a permis d'affiner la programmation est de prendre en compte, après concertation, les observations des riverains, a eu un impact sur la surface de plancher potentielle, ce qui a entraîné les adaptations du projet initial et conduit à une réalisation de 21 logements sociaux. Pour tenir compte de ces suggestions, il est proposé de ramener le prix de cession de 410 000 à 400 000 euros afin de permettre l'équilibre. Voilà.
Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Caroline, point suivant, s'il te plaît.
C'est une demande de garantie d'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VFA, vente en futur achèvement, de 20 logements résidence sur la maison Pélissier. Donc c'est la société Promologis qui sollicite la commune de Montbiot pour accorder une garantie d'emprunt à hauteur de 75% pour financer l'acquisition en VFA de 20 logements. Il s'agit d'un montant du prêt de 2 512 157 euros. Après, le projet sur cette ligne, le prêt, pardon, cette ligne de prêt, et il y a le détail sur, le, sur la délibération. C'est le montant qui compte.
Bien. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Point suivant. Libération numéro 7. Alors, vous savez que, en application de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, nous avons eu l'année dernière, le 19 avril 2017, une ordonnance qui modifie la modulation, l'occupation du domaine public. L'occupation du domaine public se faisait par tacite reconduction et de gré à gré. Aujourd'hui, cette occupation du domaine public fait l'objet de nouvelles dispositions. L'objet de la présente délibération, alors, elle fait l'objet de dispositions, à savoir la mise en concurrence. L'objet de cette délibération est de m'autoriser à avoir un pouvoir d'amodiation de ce domaine public pour des domaines dont les redevances sont inférieures à 10 000 euros, comme le prévoit la loi. Voilà. C'est une disposition complémentaire qui autorise moi-même ou M. Bernard Cassard, premier adjoint, quand je suis empêché, et cela pour une durée qui n'excède pas 12 ans. C'est-à-dire, à l'image des marchés que la collectivité peut passer en deçà d'un certain seuil, l'idée et d'autoriser le maire ou son représentant à, disons, pouvoir, amodier un espace public pour une somme qui est inférieure à 10 000 euros. Pas parce que ça m'arrange, hein, vous l'avez compris, mais parce que la loi est ainsi faite et que dorénavant, toutes les amodiations vont être soumises à ce genre de marché. Monsieur Pradet.
Sur quelques questions, ça va concerner quel type de dossier concret, question plus précise, quel type de dossier concret, c'est marché, fête foraine, c'est quel type de dossier?
Oui, fête foraine par exemple, oui, on est dans un marché qui est au-dessus de...
Non, c'est trop court au niveau du temps.
Ah, d'accord.
La fête foraine n'est pas concernée.
Et elle ne sera jamais ou elle sera l'année prochaine si elle...
Je ne vois pas, pour l'instant, elle ne pas.
Par cette mesure-là. Et vous avez décidé, dans ce cas-là, pour l'année prochaine, vous avez décidé de faire un seul bloc ou de faire par métier?
Non.
La fête foraine? Parce que jusqu'à présent, on avait une convention avec une association qui chapeautait l'ensemble des métiers.
Non, mais vous ne parlez pas de la même chose. Vous parlez de l'exploitation. Vous parlez de l'Union à Parc qui devra faire l'objet. Qui devra faire l'objet dès cette année. Oui. L'Union à Parc va faire l'objet d'un appel à. Pardon ? Oui, Patrick, si tu veux bien prendre la parole.
Oui, alors, dans le cadre de cette nouvelle disposition, effectivement, on va avoir à mettre en place une transparence par rapport à l'octroi du domaine public qui va se conditionner essentiellement sur les premières formes telles que les camions Visa ou ce type de commerce. Donc la transparence va être de mise et la mise en concurrence également dès cette saison. Pour ce type de.
C'est obligatoire.
C'est obligatoire pour ce type de commerce. Elle a déjà été mise en place puisque une publicité a déjà été faite et a déjà été. Comment dirais-je, concrète, l'attribution a déjà été faite. Et là, nous sommes en train de voir les attributions par rapport à Carnon Ouest, la buvette que nous avons sur Carnon Ouest, les camions pizza c'est fait. Et voilà, les choses se déroulent peu par peu par rapport à cette nouvelle ordonnance qui nous l'impose.
Donc, la question, c'est la fête foraine de Carnon. Vous avez donc on s'en était déjà parlé et on avait convenu qu'on le réaborderait. Vous avez décidé de l'attribuer à un seul bloc, à un type convention association ou par métier, comme ça peut se faire, j'imagine, devant le Mistral.
Un
seul bloc. Donc vous allez faire un appel d'offres,
oui,
qui va être supérieur, j'imagine, aux 12 000, et qui ne rentrera pas dans le...
Dans les prérogatives du représentant du conseil municipal. Ça sera l'assemblée délibérante qui en décidera. Monsieur Capelletti.
Alors, sur le Luna Park, je profite de cette perche tendue pour dire ce que j'avais dit en commission. J'ai remonté de riverain pour dans le cahier des charges veiller à limiter les baffes.
Mais c'est vrai qu'il y a des baffes qui se perdent.
Les baffes et les basses, les trois, au maximum. Parce que c'est surtout les basses qui sont très. Qui créent beaucoup de nuisances.
Pour avoir subi Borealis il y a quelques années, peut-être 20 ans, je ne me rappelle pas, ça se passait à Gramont. On n'entendait que les basses.
C'est ça.
Voilà. D'où le film, doucement les masses. Ça devait être au-delà que vous respirez. Plus sérieusement, voilà, donc effectivement, oui, donc, on attribuerait un seul lot. C'est toutes les redevances supérieures à 10 000 euros. Voilà.
Inférieures.
Qui passeront au conseil municipal, et celles qui sont inférieures seront de la prérogative. Enfin, oui, du ressort. Allez, parce que, pour vous dire. Voilà. De toute façon. Il y a après la commission des marchés ou quelque chose comme ça qui attribue la commission MAPA. Marché à procédure adaptée.
On a passé en MAPA il n'y a pas longtemps, les camions restaurants, hein, deux mobiles.
Oui, c'est pas matin à Malavin que je signe pour Pierre, Jacob ou Serge. On est d'accord.
Par rapport au Luna Park, on demande depuis des années d'avoir le bilan. On l'a toujours pas.
Chaque année, on vous envoie.
Ben non, on n'a jamais.
C'est le compte d'exploitation aussi, il est joué. Madame Réunion, ici, vous avez.
Pour être vraiment. Vous ne le mettez pas dans la boucle du conseil municipal, mais moi, je vous l'ai demandé, vous me l'avez donné.
Toujours.
Je l'ai demandé une fois, vous me l'avez donné une fois. Je pense que le DGS est mieux armé que moi pour faire une copie. Il y a une affaire numérique.
C'est noté. Il vous le redonnera si vous voulez.
Ah non, on l'a pas eu.
Voilà. Bon, je vous propose de passer au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Caroline, tu reprends, s'il te plaît,
oui.
Point 8.
C'est la demande pour une adhésion de la collectivité à l'association Finance, Gestion et Évaluation des Collectivités Territoriales. Vu l'accroissement de la réglementation et les contraintes budgétaires grandissantes, on souhaiterait que les équipes de direction de la collectivité disposent d'une veille sur les bonnes pratiques liées au métier de la gestion, évaluation et sur les actualités juridiques ou techniques. Cette adhésion à cette association coûterait pour qu'il y ait deux comptes de représentants 240 euros à l'année.
Vous pensez que c'est jouable? Montez-vous. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour elle. Merci pour nous. Point numéro 9.
Fixation des redevances et droits de passage dus par les opérateurs de communication électronique pour l'occupation du domaine public. Donc, dans le cadre du développement de la fibre optique et des communications électroniques, il convient de délivrer les autorisations nécessaires et de fixer le montant des redevances liées à l'occupation des domaines publics. Donc, vous avez un tableau qui vous donne les montants. Voilà, pour les domaines publics routiers, domaines publics communaux non routiers. Donc, vous avez le prix en euros au kilomètre. Donc, 39,28 euros lorsque c'est souterrain, 52,38 euros le kilomètre lorsque c'est aérien pour le routier, et pour le non routier, vous avez 1309,40 euros pour le souterrain et l'aérien, 1309,40 euros, c'est identique.
Tu me l'as fait à l'envers, là. C'est pas des kilos euros, c'est des euros kilos.
C'est ça.
Oui, eh bien, on aura tout vu.
Voilà, je me diversifie.
C'est bien. On passe au vote. Madame.
Juste, je voulais poser la question sur. Il devait y avoir une réflexion sur le déménagement des antennes reliées qui sont à la rue d'Alger. Est-ce que ça a été. Étudier, est-ce que vous avez pu voir les gens se plaignent des.
C'est les robitaux, non
C'est les robitaux.
Oui. On posera la question si vous voulez, parce que c'est pas nous qui le gérons.
D'accord.
C'est les robitaux.
D'accord. Je vous repose la question, parfait.
Point numéro 10, concours au titre Natura 2000.
On n'a pas voté.
On n'a pas voté. Ah, oh, pardon, excusez-moi. J'ai frotté. excusez-moi. Contre, abstention, je vous remercie. Paul, excusez-moi. Vous voyez, Marielle. Alors.
Concours au titre de Natura 2000. Gestion des zones humides sur Mogio. Donc, le marais de Plagnol, situé sur la commune de Mogio, couvre environ 100 hectares, composé d'une diversité de milieux naturels. Le site arbitre une richesse faunistique et floristique exceptionnelle. Bon nombre d'oiseaux protégés s'y reproduisent, plus des usages traditionnels, comme la chasse, le pâturage, y sont également présents. Le site fait l'objet d'une gestion assurée par la commune de Mogio, en partenariat avec l'agglomération du Pays de l'Or depuis 2011. La présence de la plupart des espèces rares précédemment citées est directement liée à la qualité de la roselière. Or, l'état de celle-ci fluctue fortement au fil des ans en fonction des échanges d'eau qui ont lieu avec les temps via les brèches dues aux ragondins et des martelières manquant d'étanchéité. Donc les travaux apparaissent nécessaires pour y remédier. Ils sont un préalable indispensable pour établir une gestion hydraulique cohérente sur l'ensemble du site et peuvent donc être envisagés sans attendre l'établissement du plan de gestion prévu dans les prochains mois. L'opportunité de financement au titre d'un contrat Natura 2000, encore possible en 2017, invite à déposer une demande de subvention pour la cession d'attribution en cours. Le montant s'élèverait à 1725 euros pour la commune de Mogio-Carnon, soit 10% du projet.
Et vous avez un plan de financement dans le tableau, là, avec l'État, les fonctionnaires, et tout. Bien.
Il y a l'État 17%, l'Union européenne 63%.
On les pièges, je vais raconter aussi. Il y a... Et Bernard, à un moment donné, on donnait des primes pour les tuer.
Oui, hein? On les donne toujours.
On les donne toujours. C'est-à-dire, c'est une forme de développement contrôlé.
Ouais,
c'est la régulation des naissances.
On les donne avec tout les peines de mort, ça se fait. Il y a 11 communes, je crois, qui sont dedans, déjà. Une partie par le CIVOS, par la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault.
D'accord.
Et je pense que ça. Je crois qu'on est à 4000, pas loin de 5000 ragondins en 4 ans.
Tu es
autour de l'État qui sont, oui.
Il y en a pas de combien de gages qu'on amène ailleurs, non?
Non.
On ne fait pas ça.
Non, du pâté, c'est pour le faire. Elles sont congelées et indiquées après et amenées à l'incinérateur à Béziers.
Ah bon?
Mais l'arté.
Bien. Allez, pour l'attribution de cette dépense, 1720 euros, qui est contre, qui s'abstient. Merci pour Ce travers. Allez,
alors c'est une étude de déplacement de circulation sur mon lieu. Dans le cadre du schéma directeur de développement sur l'ensemble du territoire, la commune souhaite solliciter l'expertise d'un bureau d'études spécialisé afin de réaliser un plan guide de la gestion de déplacement tout mode confondu et de stationnement au sein de l'agglomération. Le montant prévisionnel de l'étude est estimé à 42 000 euros. C'est d'autoriser M. le maire de solliciter au titre de cette étude la subvention la plus élevée possible auprès de la communauté d'agglomération du Puy de l'Or, l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie et du conseil départemental de l'Hérault ainsi que du conseil régional. Voilà, nous allons faire une étude qui va être faite, qui va nous mentionner bon, tout ce qu'il y a lieu de faire concernant le déplacement, les parkings, les voies de circulation.
Je rappelle au passage que depuis 2006, puisque c'était le date que cher M. Pradé, il y a pratiquement 15 km de voies doux, de moins de doux qui ont été réalisés, et que c'est vrai que la transition énergétique aujourd'hui n'est pas qu'une théorie, qu'une chose de Bosco. C'est quelque chose quand même qui trouve une traduction locale. Et je profite pour vous donner une information qui habituellement se donne aux communautés d'agglomération. Nous sommes en train d'obtenir de la part de BRL un dialogue très fructueux afin de relier Valergue via Mudaison, via Mouguio, via Latte, Carnon. On risque, nous, dans le plan global de déplacement, nous avons de bonnes, un bon dialogue qui est noué avec BRL pour l'exploitation des berges. Et pour un réseau cyclable qui semble prendre une forme qu'on n'imaginait pas pouvoir prendre il y a quelques années, puisque BRL était résolument fermé à cela. Et donc, c'est une, je dis ça dans l'ex, c'est une information que je donne. Voilà. Monsieur Capelletti.
Alors, je saisis la perche que vous venez de tendre une deuxième fois.
Que des perches,
c'est incroyable. Oui, donc ce souci, on a déjà discuté, hein, mais de, effectivement de mode de transport doux, de prise en compte écologique et environnementale est extrêmement importante. Hein, et, bah, moi, je soutiendrai toutes les initiatives en ce sens, sachant que au niveau national, il y a aussi un développement donc des voitures hybrides, électriques, etc., qui fait que. Et c'est d'autant plus important pour empêcher des réactions d'exaspération face au bruit qui peuvent conduire par exemple à défendre l'idée de construire un mur, hein, des murs anti-bruit, ce qui, enfin, au plan écologique et environnemental, autant qu'économique, et, n'est pas la bonne idée alors que le problème est réel. Donc, c'est voilà, ces soucis. Mode de transport doux, écologique, c'est je pense, de la responsabilité effectivement d'une commune et d'une ado.
Merci M. Capelletti. C'est l'action de la commune et des collectivités. Le pôle d'échange multimodal de Bayargues, je l'espère, à la fin de l'année, illustrera cette volonté. Tout comme j'espère que dans la fond de Montguio, l'encouragement au transport collectif sera, en tout cas, nous allons le porter de vigueur. D'autant que la place de la voiture ne sera pas la place reine comme elle l'a été aujourd'hui dans le développement de la ville sur un concept qui date de 50 ans. Voilà. Je crois que c'est aujourd'hui c'est communément partagé par les uns et les autres et je ne désespère pas de voir fleurir avec les aires de covoiturage et la facilitation du transport collectif qui est, on le sait, très déficitaire pour les collectivités mais combien quand même valorisable. Avec, je l'espère, là aussi je vous donne notre information, nous travaillons en ce moment sur la fourniture du gaz naturel vert qui est nettement moins polluant en termes de gaz carbonique. Et il n'est pas impossible que d'ici quelques temps, dans l'enceinte, pas de l'enceinte, au niveau de la concession aéroportuaire, on puisse accueillir une distribution de gaz naturel vert qui équipera nos camions de l'intercommunalité, nos camions communaux. Donc, et à terme, si nous arrivons à obtenir avec le syndicat Piquet-Étain des autorisations, pouvoir méthaniser une partie de nos fermentescibles, 30% de nos déchets sont incinérés alors qu'ils sont des fermentescibles, et permettre également de fournir par une forme de méthanisation un gaz naturel bio qui lui sera encore purifié, enfin, pas purifié, mais en fait, il sera nettement moins chargé en gaz carbonique, en CO2. Voilà, donc, ce sont des mesures qui prennent du temps. Je rappelle que c'est un concours national voulu par l'appel à projet de l'ADEME, qui se chiffre à 1 000 000 d'euros, et que la société Seven, pour le compte de la communalité, donc porte ce projet auquel nous sommes très attachés et que nous essayons de faciliter de toutes les manières possibles avec l'urbanisme et les photographes. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se tissent petit à petit. Je suis même certain. Bon, après, toutes les volontés ne peuvent pas suffire, mais en tout cas, l'intéressement financier et la conscience citoyenne ne pourront qu'y trouver son compte. Voilà. On est d'accord pour signer cette demande de financement? Je pense que oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jacques, tu continues, puisque tu obtiens des subventions.
On est toujours dans les subventions.
C'est
pour le programme aujourd'hui, le programme fusionnel de la Bourgie 2018. Le programme fusionnel de travaux de réfection de Bourgie concerne, ça a été dit, bon, la rue des Ambrins à Carnon, les chaussées, les trottoirs et les péages publics. La rue Pablo Picasso de Mougiour, c'est la rue qui part à Lyon, de l'avenue de la Mer qui va jusqu'à un giratoire à créer, et l'entourage, la réfection, disons, de l'entourage des arbres de la médiathèque, pour un montant total de 438 000 euros. C'est d'autoriser M. le maire de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du conseil départemental de l'Hérault au titre du fonds d'équipement des communes urbaines, FQ.
Bien, merci. Je pense qu'on est d'accord sur le principe de solliciter également une aide. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. En fait, tu continues.
Alors, c'est une demande de subvention pour la mise à l'accessibilité des bâtiments scolaires. La commune prévoit pour l'année 2018-2019 des travaux de mise à l'accessibilité de l'école, des écoles de Vauguière, celle des Garrigues, du groupe scolaire Louis Arbeau, Louis Michel, Mario Rostin, Jean Monnet et de l'école Jean Monnet. Le montant prévisionnel des travaux est de 479 400 euros TTC. C'est autorisé, monsieur le maire, de demander une subvention le plus élevée possible au conseil départemental, à la région ainsi qu'à l'État au titre de la dotation du soutien d'investissement.
Ça aurait pu être bouclé en combien? En 17 ou en 18, non? La loi nous est
posée. Sur 2 ans. Là, mais la première opération, c'est tous les bâtiments scolaires. Après viendra les bâtiments. On a commencé à faire l'erreur. Chaque fois qu'on fait de la réhabilitation, les bâtiments sont conformes à l'accessibilité. Et après, on va continuer sur les bâtiments sportifs et les bâtiments, comme ça, les bâtiments administratifs. Voilà.
Non, mais je sous-entendais qu'on était à la bourre, tu me réponds.
Non,
par rapport à la loi.
Non, on n'est pas à la bourre.
C'est pas 17 ou 18 que nous disait la loi.
En 2021.
C'est-à-dire on a eu des.
Alors, si c'était reporté, ça roule.
Un peu comme les reports budgétaires, que des bénéfices. Bien.
S'il vous plaît.
Oui.
Et où en est le désamiantage? Voilà, merci. L'école de Carnon.
Ça se fait actuellement.
Ça se fait actuellement.
Actuellement, oui.
D'accord.
Pendant la période de vacances scolaires.
D'accord.
Merci. Ça, monsieur Travers, vous faites le timide, mais c'est le genre d'information qui serait utile de donner au conseil municipal, parce qu'il y a des bruits dans Carnon, ça a beaucoup bougé. Le fait de le dire, ça nous permet aussi de calmer l'électorat, de dire bon voilà, c'est traité, c'est comme ça.
Mais ce sont des engagements que nous avons pris. C'est-à-dire qu'on a dit, on s'est engagé à le faire pendant les vacances, bon, on a eu un problème, disons, pour les vacances de Noël, ça a été reporté à ces vacances-là.
Moi je l'avais déjà dit à l'adjoint aux affaires scolaires. Bon voilà, il y avait une espèce de folie sur Carnon par rapport à l'amiante. Moi je dis, je veux avoir des biscuits pour dire bonne année et comment on se calme.
Le mot amiante est un mot pour moi est un grand mot.
Oui.
Bon, parce que ce sont des panneaux en fibrociment.
Oui, oui.
Et c'est pas la totalité du bâtiment.
Oui,
c'est juste que le bordage.
C'est un sujet qui est devenu un problème pour une personne et qui aurait pu devenir un problème pour nous à terme, bien que les expertises nous auraient amené à ne pas faire mais par principe de précaution, nous l'avons exercé. Ça se fait, vous avez raison, nous sommes communicants.
Ça permet de... Ça fait des vacances. On va à Canton, à Cardon, mais on n'y veut pas parler d'amiante.
C'est vrai. Bon, on passe au vote. Contre, abstention. Merci. 14, il ne reste que 13.
14, ça serait bon. Rénovation du patrimoine scolaire. Ce programme concerne toutes les écoles. Vous avez le détail sur la page 37 pour un montant total de 591 700 euros. C'est autorisé, M. le maire, de solliciter une subvention la plus élevée possible pour ces opérations au prix du conseil départemental de l'Hérault et de l'État au titre de l'opération de soutien à l'investissement local.
Effectivement, comme vous le voyez, cette année, nous avons fait un très très gros effort. 600 000 euros pour le patrimoine scolaire sans construire une unité scolaire. Donc c'est par rapport à, disons, il y a la sécurité qui est une chose, il y a les économies d'énergie, il y a également, tout ce qui est, il y a également une question de confort. Et je pense que l'éducation reste une priorité. C'est là où les chiffres sont. Il faut toujours faire attention aux chiffres parce que bon, ça n'a pas l'air beaucoup, combien on a dit, 5%, 6%. Mais c'est. Voilà la traduction concrète d'une volonté d'investir le patrimoine scolaire. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. J'aimerais bien nous parler de sport, ce qui est égal à ton nom.
Il est proposé, membre du conseil municipal, de demander des subventions le plus élevées possible pour la construction d'un site stade auprès du conseil départemental de l'Hérault, du conseil général de l'Occitanie, du développement du sport de la Fédération française de football pour un montant de raisonnable de travaux de 41 700 euros hors taxe, soit 52 000 euros CTC. Autorisez M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Bien, merci Jean. Donc, on refait le site stade, c'est ça?
Oui.
Celui qui est, il est. Alors là, c'est un équipement qui est normalement utilisé.
Oui,
Madame Arminou, ici.
Oui, et qu'en est-il de, pour Carnon?
Attendez.
Parce que là, on parle de Mogul.
Attendez, on va d'abord.
Oui.
C'est-à-dire.
Non, voilà.
À Carnon
le stade, on fait le City. Le City Stade à Mogul.
Il y en a
un
là-bas.
Je te réponds.
Oui. Sur Carnon, on a un City Stade qui a sorti de Carnon, qui est tout neuf. Hein.
Oui.
Et on a aussi un terrain de foot à 7 hein, qui est synthétique et qui occupait 100% aussi. On l'a fait il y a 3 ans. Hein.
D'accord.
Il n'y a pas de problème. Hein.
Bien. On passe au vote. Contre. Abstention. Je vous remercie.
Je ne voudrais pas me faire un deuxième si tu installes. Je suis de la plaine et ça tue. Hein.
Il est prévu. L'emplacement est prévu. Mais
donc il faut que j'urne pour qu'il y ait un deuxième. J'ai écouté votre adjoint, monsieur
le
maire.
Le financier, tout simplement.
L'ancien, on le change par mesure de sécurité.
Hein. Ouais, ouais. Il est super plein.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur la plaine de sport, on
aura un deuxième, ça serait pas mal.
Mais on va créer un trou de basket, peut-être. On l'a dans le. Voilà. D'ailleurs, t'es. Vas-y,
dans le même registre, on demande la subvention pour la création d'un street basket. Donc pour une prévision des travaux à 58 340, 70 000 euros TFC. Pareil, l'appel des sports.
En fait, on diversifie, si vous voulez, les équipements.
C'est en français, street basket.
C'est un basket de rue.
Non, basket, c'est pas basket.
C'est un panier de rue.
C'est un terrain qui est ouvert.
C'est pas, il est trop petit encore, lui est trop vieux.
Si, encore.
Sa fille est trop petite et lui est trop vieux, donc je sais pas. Moi je sais. Vous êtes
moi je suis un champion de street basket.
Bon.
Ah ouais.
Allez. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Délibération numéro 17. Étude relative au positionnement de tourisme et au déplacement sur la station de Carnon dans le cadre du plan littoral 21. Demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault, du conseil régional Occitanie. Bon, donc c'est une étude par rapport au positionnement de tourisme dont vous avez qui est confié à leur aménagement, la société de la SPL. Donc vous avez les les sommes consignées sur le tableau, effectivement, cette délibération est éligible au plan littoral 21, voulu par Carole Delga, et donc nous insérons une demande d'aide pour les études qui sont éligibles dans la refondation dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, donc l'ensemble d'aménagements qui sont stratégiques et que nous développerons, j'espère, avec l'Office de tourisme, Laurence et toute l'équipe. Passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Patty, Madame Moulin-Trafort va nous parler, elle ne va pas faire mais elle va nous parler de Pchit.
C'est chiracien, ça, Pchit.
Ben oui, oui, c'est un bracanabrandesque.
C'est chiracien.
Voilà. Alors, Caroline nous en a parlé tout à l'heure lors du budget, la ville co-organise avec la crèche, donc la fabrique artistique, pardon, un événement qui est lié au spectacle de rue et qui s'intitule donc Pchit. Alors je vous donne le sigle, parcours de spectacle court et d'histoire itinérante, tout le programme, qui se déroulera les 25 et 26 mai prochains. Alors c'est un parcours qui va mettre en scène 4 spectacles courts, une durée de 20 minutes chacun, dans des lieux particuliers, des lieux un peu intimistes de la commune, qui seront soit des lieux publics, soit des lieux privés, des cours, des particuliers par exemple. Ces mini-spectacles seront accompagnés d'un spectacle d'une heure qui sera proposé en ouverture le vendredi 25 mai sur la place de la Libération. Alors ce dispositif prenant appui sur la proximité, le lien social et la culture pour tous, eh bien, il atteint un coût organisationnel quand même de 15 000 euros TTC. Donc nous savons tous que la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée s'inscrit dans une démarche de promotion du spectacle vivant. Et donc, c'est naturellement des règles que nous nous tournons pour avoir une subvention la plus élevée possible pour nous accompagner dans l'élaboration de ce projet PCHIT.
Alors, effectivement, c'est une illustration du spectacle hors les murs, très apprécié par les Melmoriens et les Cardonnais. Je puis vous dire que l'année dernière, on a vu passer à la mairie une manifestation sur la révolte viticole de 1906.
Ouais,
l'écho de la rue. Oui, c'était vraiment magnifique, c'était superbe. C'était une histoire enchantée, gratuite, c'est-à-dire payée par nos impôts, mais enfin, c'était pas une très payante. Et c'est vrai que petits et grands, ils ont trouvé leur compte. Hein, voilà. Donc, de belle veille. Donc, écoutez, longue vie à Pchit, j'espère que ces manifestations ralliront l'assentiment des Melgoriens et des Cardonnais, quand on en fera aussi à Cardon, où je le rappelle en ce moment, il y aura le
Festimon,
voilà, qui est très prisé par
les Cardonnais. À partir de mercredi.
Voilà, merci de vous rappeler l'actualité, Laurence. On passe au vote, si vous voulez bien. Contre, pour, abstention. Tout le monde est pour, c'est parfait. Merci beaucoup. Tati, continue.
Alors, je continue là sur des choses un petit peu plus concrètes, moins artistiques, quoique. Au regard des différents programmes culturels qui sont initiés sur les différentes salles de la commune, il est bien sûr nécessaire d'investir dans un ensemble de matériel scénique qui permettent de diversifier l'offre et d'en renforcer la qualité. Alors, bien sûr, tout ça, ça a un coût. L'ensemble de ces montants représente une somme de 105 200 euros TTC. Vous avez le tableau qui vous montre un petit peu comment ces sommes sont ventilées. Alors, bien évidemment, on se propose de solliciter les organismes tels que le conseil régional, le conseil départemental et la DRAC pour l'obtention d'une subvention qui soit bien entendu la plus élevée possible pour nous aider.
Voilà, ici ça se passe tout en transparence, c'est pour avoir des micros. On n'est pas caché. On passe au vote. Contre, abstention. Merci. Madame Fabien, reprend du service.
Oui, alors il s'agit d'un maintien de garantie. Promologis et Unicil revoient leur répartition géographique de leurs activités. Promologie se consacrerait au seul territoire d'Occitanie et recevrait le parc locatif détenu par Unicil dans cette région. Donc ce transfert porterait également sur les programmes immobiliers sociaux programmés en 2017 ou en cours de construction. Et dans ce cadre, le groupe a demandé à la Caisse des dépôts et consignations de transférer les emprunts souscrits par Unicil et Promologie et portant sur financement du patrimoine échangé. Et donc dans ce cadre-là, la société Unicil demande aux membres du conseil de bien vouloir assurer le maintien de garantie pour, qui a été concerné par notre collectivité. Tout simplement, c'est un transfert, enfin, un maintien de garantie.
En fait, comme ce sont deux filiales d'Action Logement, elles se, géographiquement, elles se thématisent. On a reçu M. Capra, qui est venu avec son équipe, alors je vais vous expliquer tout ça. Pour nous, ça changerait. Je vous propose donc de valider cette demande. Contre, abstention. Je vous remercie. Nous en venons maintenant au projet de reconstruction de la capitainerie de Carnon. Alors, vous avez une série de délibérations qui expliquent l'histoire de l'autorisation pour construire cette, pour refaire cette capitainerie. Une délibération du 24 janvier pour mettre en œuvre un concours d'architecture en 2017. Ensuite, donc, nous avons un dossier de capitainerie qui a de réhabilitation qui a été présenté au conseil d'exploitation du conseil portuaire. Le concours de maîtrise d'œuvre a été lancé en février. On a eu un jury au mois de novembre et le concours a été déclaré sans suite au motif que les projets ne correspondaient pas à la maîtrise d'ouvrage aux enjeux du projet, nous en avions pas mal parlé. Donc par délibération du 18 décembre 2017, nous avons donc validé l'avenant à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, la SPL, leur aménagement pour la reprise du programme. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de relancer un concours restreint d'architecture en application des articles qui vont bien, 88 et 90, avec le décret qui va avec, le 25 mars 2016, avec un calendrier qui serait en mars le lancement du concours de maîtrise d'œuvre, en octobre le choix du maître d'œuvre, la phase d'étude novembre 2018 à juin 2019, démarrage des travaux en septembre 2019, livraison fin 2020. Autrement dit, les descriptions budgétaires d'aujourd'hui, même d'hier, ne vont pas pouvoir être consommées. Enfin, en tout cas que partiellement, même si c'est pas c'est le budget du port. Voilà un exemple, bon, c'est pas l'exception qui confirme la règle, mais c'est la vie de la commune. Voilà. Donc on vous explique que ça se déroulera en deux temps, qu'il y aura un jury, qu'on fera une sélection, qu'on donnera une indemnité à quatre personnes qui nous représentent, qui nous feront une esquisse, et qu'on dédommagera les représentants de l'ordre des architectes qui nous ont passé une aimable après-midi ou une journée, je ne sais pas. Voilà, et qu'on dédommagera les candidats de montant de 9 600 euros hors taxes. Voilà. C'est ici. Bon, on regrette que le concours ait été déclaré sans suite, mais Mme Arminov ici, vous vous en souvenez. Ouais. Malheureusement, on n'avait pas trouvé un projet, j'allais dire, digne d'une ambition raisonnable, mais enfin, d'une ambition quand même. Avoir une capitainerie à la fois fonctionnelle, totémique, et qui aussi permette un cheminement depuis le quai Meunier vers le quai Tabarly et vers la place Cassin, autrement que Gymkhana qui est proposé aujourd'hui. Voilà. Donc le projet n'était pas abouti. Donc je vous propose de m'autoriser à relancer l'étude et le concours. Qui est contre? Qui s'abstient? Capitaine, on vous remercie. Projet de délibération 22. Alors, il s'agit simplement de... Quand je dis simplement, c'est la formalité. C'est M. Albert qui est allé défendre... D'ailleurs, c'est lui qui devrait en parler. Le label... Nous avons obtenu le label ville active et sportive, niveau 3 sur 4 possible, c'est-à-dire qu'on était... Médaille d'argent, quoi. Tout près de la médaille d'or.
La médaille d'or, oui.
Ça, parle-nous de cela, Jean.
Bon, effectivement, on avait fait un dossier pour présenter la vie sportive de Moguio. Donc, sur il y avait 140 participants. On a été reçus donc, à mairie de Toulouse. Et on est arrivé second, on était 14 secondes. On a eu le prix avec 3 lauriers. Le maximum, c'était 4. Hein.
Oui, je sais.
Et donc, surtout, on a été comme Toulouse, comme Cahors. Des camps de vie. Voilà, donc on peut être fier de ce qu'on a fait.
Le bravo.
Quoi? Et ça, c'est quand même 15 ans d'activité, d'activité sportive assez intense. Voilà. Donc, il y a eu des idées, il y a eu de l'argent d'ailleurs, ça fait qu'on a quand même une ville qui a une dynamique, hein, et un public dynamique aussi.
Le lot, c'était quoi pour la médaille d'argent là?
Une bise à Loire Fessel.
Une quoi?
Une bise à Loire Fessel, à la milice.
Laquelle?
Laura Fessel, et le dit tellement vite, il a honte.
Non, il voulait savoir où la bise.
Vous voulez que je vous dise la bise? Depuis qu'il est allé, il ne s'est pas lavé. Bien, alors, l'objet n'était pas de porter. S'il vous plaît, l'objet, alors, c'est une occasion pour M. le maire de rappeler, et pour nous tous, de rappeler que bon, la ville sportive, ce qui consacre nos investissements sur Carnot avec le projet sur la plage, donc l'objet est de donner un mandat spécial à M. le maire. Disons, j'allais dire, pas à titre posthume, puisque tu es allé, mais rétroactivement, voilà, m'autoriser à rembourser les frais induits par cette escapade toulousaine. Tu es parti la journée, c'est ça?
Ouais.
Voilà. Donc les frais, vous êtes allé en train en voiture? Pardon?
Les repas.
Très bien. Donc on passe, qui est contre, qui s'abstient? Merci pour M. Albert.
Il ne doit pas manger.
Bernard?
Non, moi je ne
mange pas. Alors là, je vais vous parler des zones d'activité de Fréjord, Guest et Ouest et l'instauration d'un périmètre d'études et de sursis à statuer. Comme vous pouvez tous le constater, les zones de Fréjord, Est et Ouest vieillissent. L'agglomération du Pays de l'Or l'a bien sûr constaté. Elle souhaite initier une réflexion sur la modernisation de ce secteur de Fréjord, Guest et Ouest. Et donc, dans ce contexte, elle s'apprête à lancer une étude préalable afin de dresser un diagnostic, d'établir des scénarios d'évolution et de définir une stratégie financière, foncière et immobilière. Donc, afin de ne pas compromettre la faisabilité de ce projet, il est souhaitable de permettre à la commune de s'opposer, le cas échéant, d'opposer un sursis à statuer sur des demandes d'autorisation de permis, de travaux, qui seraient dans ce périmètre des zones de Fréjord Est et Ouest. C'est-à-dire que pendant cette étude, jusqu'à ce que la décision soit prise, 2 ans maximum, cette opération de permis de sursis à statuer, n'est possible que pendant 2 ans. Pendant 2 ans, s'il y a un permis qui est déposé et qui ne correspond pas ou qui mettrait en péril éventuellement la modernisation de ces zones, la commune a le droit de demander un sursis à statuer, c'est-à-dire refuser le permis, en attendant que l'étude soit réalisée et que nous connaissions parfaitement les conditions d'exécution des permis qui seront déposés. Voilà. C'est une protection, si vous voulez, pour permettre à ces zones d'évoluer dans le sens que le voudra la communauté d'agglomération.
Et que nous le voudrons aussi, parce que je le rappelle, c'est sur le territoire malgré, et que cette mesure, ça, ne vous y trompez pas, elle n'est pas de nature à empêcher l'initiative privée. Elle est destinée à la canaliser, à l'harmoniser, à la rendre plus efficiente. Et il se passe avec les zones d'activité ce qui se passe avec les zones d'habitat. L'État aujourd'hui, dans les orientations qu'il nous donne pour le SCOT qui est en train d'être finalisé au niveau du Pays de l'Or, l'État préconise l'économie de l'espace. Et de la même manière que pour ce qui est de l'habitat, des zones d'habitat individuelles ou collectives, l'État nous demande de travailler sur la densification, sur la ville et sur la ville. Pour les zones d'activité, il en est de même. On nous demande d'être beaucoup plus cohérents avec peut-être la création de parcs thématiques, essayer de faire au mieux pour, donner de l'intelligence et de la cohérence à ces nouvelles zones d'activité, où le rôle de la collectivité d'être facilitateur, pas prescripteur, mais facilitateur. Vous avez par exemple une entreprise comme Sutel qui est la première concession de moto au BMW en Europe,
il va libérer des locaux, eh bien, nous essayons de travailler, nous avons une recomposition, entre guillemets, intelligente des locaux qu'il occupe, peut-être les gardera-t-il, je ne sais pas. Je prends simplement un exemple. Et donc, cette mesure va nous permettre, je l'espère, d'apporter des réponses pour l'emploi, puisque l'extension des zones d'activité va passer par un jeu un petit peu c'est un jeu de tiroir. Hein, celui qui veut les entreprises endogènes vont s'agrandir ou vont se déplacer, et elles nous permettront aussi d'éviter la prolifération d'activités ludiques et de loisirs qui ne sont pas du tout compatibles avec l'existence des zones d'activité économique que sont nos zones d'activité. Je pense à ce qu'on avait avec le bar live ou le discothèque comme une des zones d'activité n'est pas la bienvenue de mon point de vue. Il y a des endroits pour ça, tout simplement. Et donc, ce souci statué va nous permettre justement d'apporter de l'intelligence, de la plus-value dans la recomposition de ces zones pour lesquelles donc notre société, la SPL, va très certainement être mandatée par l'agglomération pour justement travailler à la recomposition, pas urbaine, mais fait des bâtiments et de l'espace pour ces zones. Ce qu'a fait l'État.
Oui, juste une remarque sur cette question de Fréjorgues. Je pense que ce que vous dites et le souci que vous avez est extrêmement important. Il faut rappeler que parmi les zones d'activité d'aéroports qui se disent internationaux, la zone d'activité de Fréjorgues est une des plus atrophiées de France, c'est-à-dire en termes d'emploi, de dynamisme, et puis je passe effectivement ce que vous avez dit, M. Cassard, vieillissement, et de, je pense que sur ce point, il y a des points où on souffre effectivement de la séparation, peut-être d'une concertation insuffisante, enfin, moi je pense d'une séparation avec la métropole de Montpellier, au-delà des modes de transport doux, etc., c'est justement sur cette zone d'activité, quoi. C'est-à-dire que là, on paye le fait de pas être en coopération sur cet aspect-là. Et ça se traduit par ces résultats. C'est des études qui sont accessibles sur Google. Hein.
Ça peut être un aspect des choses, mais je puis vous dire que les zones, la nouvelle zone, le parc industriel Méditerranée, le PIOM, là, qui va se dérouler sur 7 hectares et demi et non pas sur 2 fois ou 3 fois plus, n'est pas due à une hypertrophie pour cause d'incompatibilité avec la métropole, mais c'est surtout par rapport au PPRI. Et il n'est que de voir les études cofinancées de la mandature précédente. J'avais eu l'occasion de signer avec la métropole, avec le département, une étude et la ville de Montpellier. Non, la métropole, Pays de l'Or et le département et la région, les quatre. Nous avions signé un protocole pour une étude commerciale pour justement l'installation de ces zones et la configuration de ces zones. Plus tard, nous avons signé, dans le cadre du plan global de déplacement, comment innerver ces zones, avec quel mode de transport. Et c'est vrai qu'on voit les choses un peu par le petit bout de la lorgnette, puisque, certes, si l'aéroport est sur la commune de Montguyau, pour autant, l'aéroport régional, et l'eau de la mer et tout ce qui se fait au niveau de pailletrice n'est que la résultante de la proximité de l'aéroport, en partie. Donc, ayons une vision plus large et pas que sectorielle de ce développement, où je puis vous dire que le consortium Ad Vitam travaille dans la complémentarité avec la métropole et pas dans la concurrence. Vous voyez, à ce niveau-là, la raréfaction des terrains que nous pouvons offrir, dont les deux qualités sont accessibilité et visibilité, font que nous sommes encore dans une compétition, j'allais dire saine, pas dans une concurrence. Une compétition où nous avons des grands comptes qui sont en train de s'intéresser à notre affaire. Et aujourd'hui, on a eu encore une réunion avec M. Tony, le secrétaire général de la préfecture, la semaine dernière, pour voir comment les voies d'insertion à partir de la départementale de l'année 66 peuvent se tisser à ce niveau-là, et même avec des points d'échange, peut-être un nouveau rond-point, on ne sait pas, avec la métropole, mais on en parle là d'une affaire entre 10 et 15 millions. On ne parle pas d'une paille, hein, triste. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, on a cet endroit qui est prometteur, et donc la capacité potentielle d'aménagement est initialement de 25 hectares, et un coup, parce que c'est le champ de périmètre du chlore, de protection du chlore, un coup parce que c'est le périmètre des champs captants, un jour parce que c'est l'amendement du pont, un jour parce que le PPRI nous vaut des prescriptions de plus en plus restrictives. Eh bien, nous arrivons aujourd'hui à 7 hectares et demi. Et cette affaire, on va la porter avec un déficit au départ, vraisemblablement, que nous retrouverons très rapidement. C'est l'investissement productif. On perd un peu, on perd un mouchoir, mais dans quelques années, on aura une serviette et putain, un drap de lit. Si vous voulez, on va investir, ça vaut le coup. Mais on n'est pas dans la compétition, sauf peut-être pour une entreprise qui, idéalement, aimerait être sur le territoire de Montpellier ou sur le nôtre, parce qu'on n'a pas résolu la thématique du transport et de l'accessibilité. Elle est travaillée, je peux vous le dire, avec l'État et avec les collectivités. On n'en est pas à se manger le nez, nous, entre département et métropole, par rapport à des transferts de compétences. On est vraiment dans un esprit très constructif. Voilà, ça je peux vous le dire. Et surtout, et je ne l'ai pas dit, avec l'aéroport. Avec l'aéroport qui, lui, va être le grand bénéficiaire de ces aménagements. Pas lui en stricto sensu, mais on va mettre, il va y avoir un grand hôtel, il va y avoir une résidence pour étudiants. C'est important, moi, je m'arrête. Il va y avoir 19 000 mètres carrés de bureaux que va faire M. Defesquet, c'est le promoteur. C'est lui qui va l'avoir, avec une intégration environnementale très forte, là où vous avez le tarmac avenu. Donc, on est quand même dans une recomposition d'un paysage qui aujourd'hui pose problème en termes de voie d'accès, avec une desserte, une plateforme d'échange complètement à la noix, qui s'inonde, et sur laquelle nous essayons de connecter la nouvelle zone de l'aéroport avec le tram et avec les modes de déplacement, dont un début a été initié sur la petite voie qui traverse devant la part des expos. Donc là-dessus, j'allais dire, on est plutôt bon. Enfin, on est plutôt pas mauvais, allez, comme vous voudrez. Et puis on verra comment ça marche. On n'est pas en compétition. On ne se tire pas la bourre là-dessus. Voilà. Le problème, c'est d'arriver à avoir autour de la table des financements publics. Et d'ici un mois, il y aura une réunion préfecture où il y aura les décideurs, les gouvernances, pour voir qui met quoi et quand. Voilà. Mais ça ne sera pas... Ce ne sera pas d'ici la fin du mandat, je vous le dis. En revanche, l'accès d'une bretelle pour aller à la zone, ça c'est quelque chose qui va être étudié. Bon, j'ai perdu le fil. Pourquoi on a dit ça? L'obtention des mandats et des préjours. Voilà, oui. La redensification. Bon, vous êtes. On passe au vote si vous êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci d'adhérer au projet. On passe ensuite. Bernard, tu continues toujours, s'il te plaît.
Oui. Donc là, je vais vous parler de la zone de l'aéroport. L'extension de la zone de fret aux abords de l'aéroport et l'installation d'entreprises d'activité logistique a amené les 5 collectivités qui financent ce projet, c'est-à-dire la commune, l'aéroport, l'agglomération, le département et la région, à se poser des questions en ce qui concerne les aménagements routiers à réaliser, pour permettre cette activité logistique, que cette activité logistique puisse se dérouler sans nuire considérablement à la circulation et aux riverains. Donc une étude a été réalisée en 2016. Elle a permis de mettre au jour la nécessité d'un barreau de liaison entre la RD 172 et la RD 189. Cette réalisation de ce barreau est estimée à 2 801 700 euros TTC. Le projet stipule que la commune de Moglio s'engage à verser au département la somme de 176 306,25 euros. Correspondant à 7,5% du montant total de l'opération, qui sera payé en 4 fois, 5% à la signature de la convention, 10% à l'obtention de la DUP, 50% au commencement des travaux et 35% à la fin des travaux, soit le montant du solde. Voilà.
Alors effectivement, vous allez nous dire, il aurait peut-être fallu un plan. Alors on a trois variantes aujourd'hui, dont une qui aurait les faveurs pardon, du département, auquel j'ai demandé l'exposé devant les riverains, les gens de Vaubière. Et aujourd'hui, par rapport aux différentes études qu'ils doivent faire, ils m'ont dit on ne peut pas le faire tout de suite. Personnellement, j'ai présenté aux riverains une esquisse de ce qui risque de se passer, c'est-à-dire qu'au niveau du rond-point, au niveau du rond-point de l'aéroport, vous avez une route qui passe sous l'endroit où il y a les anguilles, vous savez, à Vaubière-le-Bas, qui contourne les serres, qui passe loin de la zone habitée, et qui va ensuite retrouver le 189, où on aura un rond-point qui sera aménagé, un rond-point qui permettra un point d'échange, et à terme, la 172, qui servait de raccourci en passant par Vaubière-le-Bas pour passer devant les gens qui arrivaient à la banquière, les gens de Moguio, sera chantée, elle sera coupée, de sorte qu'elle ne servira qu'à la desserte de l'aéroport et à l'accès à la zone d'activité du pion, les ports de l'aéroport, quoi. On a pris un nom ronflant parce qu'il faut très un temps que ça pète. Voilà, parc.
Porte de l'aéroport.
Parc industrie hors Méditerranée. Ça viendra quand on commencera à voir cela. Donc, tout cela pour dire qu'il y a eu un tour de table où la commune a participé parce qu'il y a des entreprises qui vont créer des emplois. Et là, ça n'est pas tellement le ZIX. Les 50 ou 200 emplois à terme qui vont être créés, c'est surtout le désenclavement de la zone de l'aéroport. C'est ce qui aurait pu être fait, et je me dirais même dû être fait dès 2011, quand s'est installée la plateforme industrielle du courrier. De sorte qu'à ce moment-là, il avait été étudié le barreau. L'idée, c'était d'élargir la route et de passer par Vaubière-le-Bas. Et aujourd'hui, si je peux me consoler personnellement de ce différé dans la réalisation de ce désenclavement, c'est bien que les zones habitées ne seront pas du tout impactées et qu'on sera arrivé à faire passer une voie d'accès qui va certes gréver une partie des cultures, à un moment donné, on ne peut pas tout avoir, mais qui permettra quand même d'éviter, qui sera au-dessus de l'école, dont l'école sera totalement préservée, l'accès à l'école sera totalement préservé, et qui n'impactera pas non plus les résidents en termes de proximité. On joindra au compte rendu, si vous voulez, les diverses variantes, les études qui ont été faites.
Le conseil municipal prendra position sur les variantes ou pas? Par en vote?
Bonne question. Je pense que ça va être exposé, c'est le département, c'est pas nous qui allons choisir, c'est le département. C'est la compétence départementale. On aura ces discussions, de toute façon. Le département, j'ai demandé au département d'organiser des réunions, et vous serez invités à ces réunions dès lors qu'elles seront déclenchées. Il y a de grosses études environnementales, en gros il y en a pour 2008, à la louche, voilà, de mémoire. Voilà. Et les autres idées, vous verrez, il y a diverses variantes, une qui est à 1 million de plus, et une autre qui carrément ratatine le territoire et qui passe par Vaubière-le-Bas, ce que je ne souhaitais pas, par les amis. Voilà, donc l'idée c'est de nous autoriser à participer au financement de cette qui a été la condition posée par le département et la région. L'aéroport se faisait un petit peu tirer l'oreille au début, et tout le monde, il y a eu un tour de table, bon, nous sommes coûteux, 7,5 on l'a dit, c'était combien?
7,5,
voilà. Donc c'est le signe d'une participation active, ce que j'appelle investissement productif. Voilà. Donc je vous propose de voter cette subvention, cette participation, c'est pas une subvention.
Le plan vous sera joint au compte-rendu du conseil.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pas tourner le dos au développement de l'économie. Point 25, Bernard.
Alors, le point 25, c'est la réhabilitation du Lofel de l'ex-caveau de vente de l'ancienne cave coopérative de Mouvio. Nous avons un projet de création d'une cuisine de réchauffage pour les traiteurs qui viennent à l'espace Montbastel. Et cette cuisine serait donc installée dans l'ancien caveau de vente de la CAF coopérative. La réglementation nous oblige à demander au conseil municipal l'autorisation de déposer le permis de construire afférent à cette création de cuisine.
Bien. Master Chef. Contre, abstention, merci. On n'aura plus de bouton. Très bien. Jacques.
Renseignement en convention d'habilitation avec Aéroénergie dans le cadre du dispositif de certificat d'économie d'énergie. Lorsque la commune engage des travaux d'amélioration de performance énergétique sur les équipements et les bâtiments de son patrimoine, il est possible d'obtenir ces certificats d'économie d'énergie qui peuvent représenter une ressource financière pour la commune. Aéroénergie, syndicat d'énergie de département de l'Hérault, propose aux communes d'organiser la collecte de ces certificats, de prendre en charge les démarches administratives et de suivre leurs instructions. Le reversement de produits de la vente de ces certificats d'économie d'énergie à la commune est à la hauteur de 85%. Les 15% restants sont réservés aux syndicats pour couvrir les frais de gestion. Monsieur le maire propose d'approuver cette convention.
Bien. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Ça participe aux préoccupations de la transition énergétique et de la rénovation du parc. Laurence, je parle de l'OMT.
Oui, merci. Donc, tous les trois ans, on vote une convention d'objectifs qui est une convention signée entre la mairie et l'office de tourisme afin d'envisager les moyens financiers et techniques qui sont mis en place par la mairie contre des missions dévolues à l'office de tourisme qui sont l'accueil, la formation touristique, la promotion du territoire et les animations. Et cette année, il y a une nouvelle ligne avec la promotion des patrimoines. Comme en parlait Caroline Fallier tout à l'heure, on va mettre en place un certain nombre de journées à thème sur Mobio pour faire découvrir le patrimoine de Mobio, avec la première qui est en travail dans un futur très proche, qui est sur une journée, un dimanche à Mobio, qui invitera à visiter le marché de Mobio, le centre historique, la mode, mais aussi le sentier des cabaniers. Voilà. Donc la convention, vous avez dû la voir en pièce jointe pour en prendre connaissance. Voilà ce que j'en ai à dire. Vous votez, vous faites quoi?
Oui. Vote pour cette démarche, M. Prodeil.
Je profite du fait que vous ayez parlé du sentier des cabaniers pour faire remarquer qu'on a. Là où il y a le parking avant le pont vert, il y a aussi le dépôt des poubelles. On est juste à la catastrophe. Il faudrait vraiment tirer les oreilles à la glo pour qu'on ait plus de poubelles. C'est impossible d'avoir quelque chose de propre. Il manque de quoi accueillir. Quand vous êtes au week-end de Pâques, vous n'êtes pas sans savoir que pour Pâques, tout Mobio est aux cabanes. C'est la tradition, c'est la commande à l'omelette. Là, vous avez deux fois plus de... Que le contenant. Donc, un peu qu'il y ait quelques fripons qui délaissent des encombrants et un peu qu'il n'y ait pas assez de capacité d'accueil des ordures, vous vous retrouvez avec un parking qui est fait pour accueillir les touristes et qui est un parking très fréquenté qui se retrouve au même endroit qu'une décharge. C'est juste pour l'image de la ville, c'est juste lamentable.
On est bien d'accord, on partage bien cette appréciation des choses. D'ailleurs, Madame Julie, vous ne pourriez pas trouver une meilleure interlocutrice qu'elle, parce qu'il y a un gros travail qui est fait sur la propreté, et un de ces jours aussi, on montrera en Belgrin au cas où on est, peut-être aussi ce qui se passe quand on est à vous. Et on leur fera toucher les doigts, on fera des actions, ça ne va pas tarder, des actions choc, pour justement interpeller les gens. Absolument.
Il faut interpeller le président de l'agglo, d'abord.
Non, ne vous inquiétez pas.
Mais sur ce sujet précis, il y a un mail qui est parti dans la semaine à l'attention d'André et de Jacques pour justement réfléchir au début du sentier des cabaniers qui effectivement se fait sur un endroit qui n'est pas toujours propre. Donc vraiment cette semaine, on s'en est préoccupé et c'est une préoccupation qu'on a aussi.
Qui est toujours crade. Hein. Vous pas, hein. Il est toujours crade. Tous les week-ends, il est crade.
C'est ça. On est d'accord.
Très bien. J'en profite aussi pour saluer le travail de Laurence Gély sur les chemins de la nage, puisqu'on a des avancées significatives via les compagnons de Maguelone, via Pierre Boudoir et les départements, et surtout VNF, c'est ça?
Tu nous as dit un petit mot ?
Oui, alors là, c'est un petit peu une casquette un peu différente que j'ai, puisque je suis bénévole chez les Compagnons de Maguelone, je fais partie du bureau. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'ouverture du chemin de halage aux cyclistes, puisque les piétons, ils sont à peine tolérés, et les cyclistes, ils sont formellement interdits, ce qui veut dire qu'il y a bien entendu beaucoup de cyclistes dont je fais partie. Mais on ne peut pas promouvoir ce trajet au niveau touristique. On ne peut pas l'aménager parce qu'on n'a pas le droit de le faire, on n'est pas chez nous, on est chez VNF, qui refuse de l'ouvrir. Le jour où on pourra l'ouvrir, ce circuit, le jour où il y aura une convention de superposition de gestion qui sera signée entre le département et VNF, ça veut dire qu'on pourra l'aménager, mettre des panneaux à 12 km, les Compagnons de Maguelone, pour vous restaurer, etc. Et on pourra avoir un circuit extraordinaire entre Aigues-Mortes et Sète. Voilà. Jusqu'à présent, VNF refusait. Parce qu'ils ont en permanence des travaux de dragage. Et les travaux de dragage, ça veut dire qu'il y a une barge arrêtée qui n'a pas de moteur. Donc, elle est tirée par un tracteur qui est sur le chemin de halage, qui représente un premier danger. Le deuxième danger, c'est que quand il y a cette barge, il y a un tuyau qui passe au-dessus du chemin de halage pour amener les sédiments dans un casier qui est au-dessus du chemin. Donc, on peut rentrer dans le tuyau. Un troisième danger, c'est que des gens pourraient se noyer en allant nager dans le casier. Et enfin, 3 mois plus tard, il y a des camions qui viennent chercher les boues qui sont sèches, et donc il y a des camions qui circulent sur le chemin de halage. Donc ça fait des obstacles continus à la sécurité des gens. Donc nous, ce qu'on voulait proposer, c'était une ouverture qui pourrait se faire temporairement, par exemple en été, ou le week-end, mais jusqu'à présent, on a chopé parce que VNF ne voulait pas être à la table des négociations. La nouveauté, c'est que nous venons d'apprendre que VNF serait à cette table des négociations à titre expérimental et sur un tronçon, deux tronçons bien limités qui sont entre Carnon et la Grande Motte, Frontignan et Sète, et les Compagnons de Maguelone ne sont pas concernés, mais en tout cas, on se retourne la table. Voilà. C'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a un début de négociation que nous n'avions pas. Merci. Historiquement, nous n'avions pas ce début
de négociation. Merci Laura, ce que je voulais souligner, c'est cette ouverture quand même de la part de certaines instances ou institutions, que sont VRL et VNF, par rapport à la mise à disposition d'équipements au bénéfice de l'intérêt commun. Voilà. Merci. On passe au vote. Contre, abstention. On y va, merci. Toujours toi, Laurence.
Oui, alors, la salle des 6 est ouverte donc aux peintres. Les peintres, quand ils viennent en association, c'est une façon de privilégier les associations locales, ont un tarif qui était dérisoire et que nous augmentons, qui reste encore dérisoire, puisque c'est 40 euros pour le forfait d'accrochage. Mais c'est un forfait qu'on a quand même augmenté parce que ça prenait le ridicule. Donc là, ça reste très très abordable pour les associations, pour 10 jours. C'était 40 euros pour 10 jours.
C'était combien?
Et c'était beaucoup moins. beaucoup moins. Je l'ai plus en tête. Mais là, on est à 40 euros les 10 jours.
Et pourquoi? Parce qu'on avait besoin de 40 euros?
Non, le but... Ah non, il faut faire payer pour déjà mettre tout le monde sur un pied d'égalité sur l'accès à ces salles.
C'est le chevalet.
Tout le monde se bat pour y rentrer. Et en fait, le tarif est très intéressant. C'est vraiment pour privilégier le local et les associations comme Couleur Pastel. Qu'est-ce que je dis
Pourquoi l'augmentation? Pourquoi l'augmentation? Vous pouvez privilégier par des fonds municipaux.
Parce qu'on est passé déjà à 10 jours au lieu de 7.
Ouais.
Et pour se rapprocher de quelque chose d'un peu sensé...
Moi, je trouve qu'on a une politique vraiment sur l'accès des salles municipales aux associations, ça devient compliqué. Hein. J'ai lu le papier là, des anciens combattants qui étaient un peu raides. Je me suis fait expliquer, ils ont dit la même chose que moi. Hein. Ils ont dit on a des camarades, ils s'appellent aussi camarades entre eux, qui ont 80, plus de 90 ans, qui ont fait la guerre. Sauf pas monter l'escalier à la salle polyvalente. Donc, on est
là, vraiment.
Oui, mais fait provisoire, ça fait 6 mois que vous me dites on va le régler vite et qu'on vous recontacte, qu'on ne voit rien venir. Ça commence à devenir très compliqué. Morastel est devenu plus cher en accès avec des frais de nettoyage. Ça, vous augmentez tous les tarifs. Je ne sais pas quel est le sens de cette politique. Même si c'est 40 euros. Mais là, tu vois, je peux penser que c'est pas très cher, mais bon, tout dépend des
achats. 40 euros, il peut être 10 parfois dessus.
Bah, la salle, elle peut pas être 10 quand même, non.
Mais si, on est monté à 10, bien sûr. Mais oui, chacun, si chacun amène un, deux, trois tableaux, on arrive à en mettre. Ils ont toute la salle quand ils sont là. Les deux salles.
Non, mais je ne sais pas quel sens ça a pour notre municipalité que d'augmenter les frais. Je ne sais pas quelle politique ça peut recouvrir.
C'est 40 euros les deux premiers.
Je ne sais pas.
C'est symbolique, c'est pas du tout. Mais cheval. Mais ils participent, c'est tout. Je ne sais pas. Tu te souviens pas? Bon, on vous dira, on reprendra la discussion si vous voulez. À mon avis, on a dû le tripler le cras du prêt. 40 euros, ça fait rire, c'est sérieux.
Quand même.
On ne va pas non plus se remplir les caisses là-dessus. C'est une question de responsabilisation. Comment? Mais vas-y, réponds.
Mais je voulais parler des anciens combattants. Ils sont au courant de ce qui va se passer. Hein. Ils savent très bien qu'ils ont. Après, ils vont aller à la maison de la sauce. Ils n'auront pas de salaire, ils le savent. Ça, c'était comme le mal que.
Le problème, c'est pas ça.
Moi, j'ai vu du mal.
Non, le problème, c'est l'accessibilité. On comprend bien que c'est l'accessibilité.
Temporairement. Mais dans les assassins, ils seront.
Ils vont. Oui. C'est M. Claverie qui est.
Moi, j'ai fait une réunion avec les anciens combattants il y a la semaine dernière. Bon, en fait, leur problème qui est évoqué, c'est le problème de. Parce qu'ils se trouvaient qu'ils avaient des bureaux privatifs à la maison Estève. Et le fait d'aller à Prévert, ça ne leur plaît pas trop parce qu'ils n'auront pas une salle à eux dans laquelle ils pourront exposer leurs drapeaux, leurs tableaux, etc., leurs décorations. Mais il faut dire qu'il n'y a quand même pas une unanimité au sein des associations d'anciens combattants. Il y a deux associations d'anciens combattants qui ont fait publier l'article. Mais les autres se sont débrouillés pour trouver des locaux et tout, et ils ne sont pas du tout d'accord avec le fond de l'article qui a été. Bon, ils ont signé une pétition, mais au fond, chacun s'est débrouillé et j'ai pas eu de remontée. Hein.
Très bien. Merci pour cet éclairage. Dernière intervention, Laurence, et puis on passe au point suivant.
Oui, avec Cathy, on se disait, on se concertait. Il ne faut pas oublier que les artistes qui sont là vendent dans la semaine. Hein. Il y a un côté mercantile de leur part. Il n'y a pas de raison d'avoir une salle gratuite pour vendre.
Après ce qui se positionne comme problème quand on arrive sur la station balnéaire et les expositions d'associations, effectivement, qui vendent, on a des mercredis du port avec des exposants, avec des non-sédentaires qui vendent aussi. Après, il y a une espèce de concurrence illégale qui se met en place, hein, qui fait que les associations auraient effectivement le domaine public gratuitement et vendraient.
C'est vécu comme injuste.
On est toujours borderline par rapport à ça. Donc, il me semble que 40 euros pour 10 jours d'expo.
En pleine saison.
Je pense qu'on peut s'en sortir sans en faire une affaire d'État. Je pense.
Bon, voilà. Bon, échange d'appréciation. Merci pour ces éclairages. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Tricoire, Laurent. Indemnité de départ volontaire.
Donc, comme vous le savez tous, le décret du 18 décembre 2009 a institué une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale. Dès lors, les collectivités ont la possibilité d'instaurer et de verser cette indemnité de départ volontaire en cas de démission de l'agent, bien sûr de la fonction publique. Donc, vous avez dans le projet de délibération tout ce qui encadre ce décret, tout est encadré par le décret, bien sûr. Et pour l'instant, ça n'avait pas été fait à la mairie de Mont-de-Carnon, mais à ce moment, il n'y a pas encore des noms qui se précisent, mais il y a des gens qui ont peut-être des projets. Et donc, on vous demande d'accéder à ce décret pour permettre à nos agents de pouvoir accéder à leurs projets.
Bien. On passe au vote. Contre, abstention.
Je rappelle que j'ai proposé qu'on leur crée une cagnotte spéciale pour les intéresser financièrement. Et je pense qu'ils ont entendu.
Ils n'ont pas cru.
Très bien. Merci pour cet échange sur le toit de Limoux.
Et ça, c'est pas du tableau noir.
Merci pour eux. Mais le table noir, c'est au table noir que c'est d'abord les meilleures tactiques, hein, en tant qu'ancien pédagogue.
C'est notre outil de base.
Voilà, c'est l'outil de base. Après, noircir le tableau, c'est autre chose. Monsieur Kojak, André.
On peut s'appeler pendant le monde de guerre, d'accord.
Et... Bon, nous allons terminer ce conseil municipal par un mille grenier. Alors, monsieur le maire expose.
Tout le monde, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Monsieur Sanchez,
à toi. Au commencement. Alors. C'est une subvention exceptionnelle à l'association des secours populaires dans le cadre du vide-grenier spécial Noël. Alors, monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de sa politique relative au lien social et à l'amélioration du cadre de vie, la municipalité organise des vide-greniers, des rassemblements populaires au cours duquel les habitants de leur commune exposent les objets dont ils n'ont plus l'usage, afin de s'en débarrasser en les vendant aux visiteurs. Chaque vide-grenier, 60 places sont proposées. Il y a 40 places pour les habitants des quartiers concernés et les 20 autres pour les habitants des autres quartiers de la commune. Les participants s'acquittent du paiement des stands dont le tarif a été fixé à 4 euros en conseil municipal. À l'approche des fêtes de fin d'année, un vide-grenier spécifique autour de Noël avec un prix de stand fixé à 5 euros depuis 2014 par le conseil municipal, est organisé en partenariat avec une association caritative. En 2017, c'est avec le Secours populaire que le partenariat a été établi. Lors de cette action, 40 stands ont été proposés aux habitants de la commune, dont 20 étaient réservés aux objets et autres affaires pour enfants, des livres, des vêtements, des jeux de la puériculture. Par ailleurs, il est proposé à tous les exposants de faire un don au Secours populaire en affaires pour enfants, jouets, etc. Le montant des recettes est de 180 euros. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association du Secours populaire du montant correspondant à la vente des stands qui a été réalisée dans le cadre du vide-grenier de ce spécial Noël.
Merci André. Je pense que personne n'y verra d'inconvénient.
Merci pour ton rire.
Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie, mesdames et messieurs, chers collègues. Je vous donne rendez-vous le 9 avril à Carlon. Ouais. On se dépayse maintenant que c'est l'avant-saison. Voilà. Deuxième de saison. 9 avril à Carlon, 18h, salle MSZ. Et précision sur le document qui vous est donné par M. Tricoir.
Donc, recensement des besoins en formation pour l'année 2018. Plus tôt vous faites le retour, plus tôt nous pourrons monter le plan de formation dédié aux élus et voir quels seront nos choix.
Monsieur Bradet.
On est bien d'accord que la formation des élus, c'est un acte de liberté individuelle, qu'ils choisissent les opportunités de date, les opportunités de centres de formation, les thématiques, sans avoir à en rendre compte a priori à la collectivité. Il y a eu des jurisprudences pas loin de chez nous. On est d'accord, je sais que vous êtes plutôt sur cette philosophie-là, mais un plan de formation, c'est compliqué à monter pour des élus.
Oui, mais on aimerait bien le recenser pour être quand même un peu carré et savoir comment on va distribuer
les formations.
Vous en bénéficiez pas de 10 et moi d'aucune.
Oui, mais c'est un droit à tirage par année. Hein. C'est cadré
pour nous. Oui, mais c'est cadré, mais c'est pour ça qu'il faut savoir vers quoi vous penchez quand même. Sinon, on ne peut pas aller.
Non, vous reviendra, il y a un cadre légal.
D'accord.
Bien. Merci à toutes et à tous. Et belle soirée. C'est pour ce qu'il en reste. À bientôt.
Merci.
Vous avez vu que le maire de Lunel s'est cassé par Mouzeau. Elle peut le faire la semaine après. Ah, je suis pas prêt. Ouais.